RMC, la boîte à souvenirs. Jérôme Roten.
Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Roten, j'ai 42 ans, j'ai été finaliste de la Ligue des Champions en 2004 et j'ai fait le choix de dire non au plus grand club d'Europe pour jouer dans mon club de cœur, le Paris Saint-Germain. Vous pensez certainement que j'ai le boulard, c'est vrai que j'avais un pied gauche incroyable, mais vous allez peut-être pour la première fois vraiment me découvrir, car ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui nous sommes avec le grand, non je vais pas dire ça tout de suite, avec Jérôme Roten. Salut Jérôme.
Bonjour à tous.
Alors durant une heure nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments avec Monaco, tes cicatrices, avec le PSG, avec l'équipe de France, le champion que tu étais, le papa, l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple, face à toi une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion. Tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus, un mot clé, une date, un moment que tu vas nous raconter évidemment. Avant de débuter cette boîte à souvenirs, c'est la question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Comment tu te sens ?
Écoute, déjà je connais le style de ton émission aujourd'hui et j'en ai écouté l'année dernière. Donc je suis un peu stressé parce qu'il y a des surprises forcément. Et tu t'attends à des choses, d'autres vont être surprenantes certainement. Et puis voilà, après c'est bien aussi de se livrer. Je trouve que on le fait pas assez, on est toujours dans le même, on dégage quelque chose, on est là pour parler de notre sport, notre passion, mais là c'est se livrer sur d'autres choses, donc c'est excitant à la fois.
C'est excitant et j'espère évidemment que tu vas apprécier toutes les belles surprises. Le premier papier dans la boîte à souvenirs avec Jérôme Roten, tu peux évidemment piocher dans cette
boîte. Allez. Promo 1991.
Promo 1991, ouais. Évidemment, on va débuter avec ta carrière, ta très jeune carrière. On est à l'été 90, tu as 12 ans lorsque tu passes les détections à Clairefontaine. Il y a 800 candidats et d'ailleurs c'est ton père qui te fait la surprise et qui t'inscrit.
Exactement. Ouais. C'est mon père qui me fait la surprise parce que... Alors il faut vraiment être passionné de foot et comprendre un petit peu, même si dans d'autres sports ça se passe pareil quand t'es tout jeune. T'as des sélections, t'es récompensé quand t'es bon en club, des sélections. Alors nous à l'époque c'était des districts, donc moi je faisais partie du 92 et après du 78 en jouant à l'AS Meudon et après au FC Versailles. Et là en l'occurrence je jouais à Versailles, donc 78, les Yvelines. Et donc les meilleurs des Yvelines de ma génération se regroupaient sur une phase finale à Clairefontaine. C'était les interdistricts, donc tu rencontrais toutes les autres districts de la région parisienne. On faisait une phase finale, ça durait un week-end, c'était très sympa. On partageait des bons moments et à la fin, donc on commençait le vendredi, ça finissait le dimanche soir. Et à la fin, tu récupères tes affaires parce que tu dors sur place et tout. Tes parents viennent te récupérer, même si mon père, il dormait presque là-bas parce qu'il regardait les matchs. Et quand tu rentres à la maison, on m'avait filé un papier. Et j'avais mis ça dans mon sac sans regarder vraiment ce que c'était, tu vois, dans l'excitation de raconter mon week-end à ma mère, à ma sœur à l'époque. Et donc, en vidant mon sac, mon père est tombé sur le papier et il m'a inscrit. C'était donc l'entrée, test d'entrée à l'INF Clairefontaine. Il m'a inscrit et puis un mercredi, sans rien me dire, il m'a dit... Écoute, on va faire une après-midi de foot à l'INF Clairefontaine. Donc, je retournais à Clairefontaine, c'était magnifique.
Et tu passes les étapes petit à petit, je le disais, 800 candidats. Alors, il y a une première sélection, une deuxième sélection, une troisième sélection. Bref, il y a le rituel de cette fameuse lettre où on t'apprend que tu vas passer à la prochaine convocation. Donc, petit à petit, le rêve prend corps.
Ouais, parce que à l'époque, il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'internet, vraiment le Minitel, mais bon, c'est pas sur le Minitel que t'apprends, et puis il n'y a pas de portable surtout. Donc, t'apprends, la suite si t'es retenu par des lettres, en effet, qui arrivent en général en milieu de semaine. Donc, quand tu as passé les tests le mercredi, 15 jours après, en général mercredi ou jeudi, tu reçois la lettre, et c'est ce qui s'était passé sur les premières sélections, du moins le roulement, comme tu dis, 800, après on devait être 400, après 200, et puis après ça se réduit. C'est vrai qu'il y a un rituel qui se met en place, tu te prends au jeu, et puis surtout tu crées des affinités avec les autres gamins avec qui tu fais les tests, parce que bah, t'en as d'autres que tu retrouves naturellement, il y en a d'autres malheureusement bah, qui passent pas le cap. Et donc les fameux coups de téléphone sur les téléphones fixes, tu vois, parce que vu qu'il n'y a pas de portable, bah, on avait échangé, et surtout avec je m'étais fait un ami qui s'appelait Joachim Machado à l'époque de Mantes-la-Jolie, et c'est vrai qu'on avait on échangeait, j'appelais, alors tu l'as reçu la lettre, tu l'as pas reçu, jusqu'à la dernière où là c'était un peu tendu parce que mon père m'avait caché la lettre.
Et tu vas faire partie des 24 reçus, ouais, à Clairefontaine. Il y a Thierry Henry dans, ouais, cette promo 91, il y a Nicolas Anelka, mmh, il y a Willem Dialas, ouais, il y a donc Jérôme Rotten. Évidemment, vous avez tous 12 ans, donc à cette époque-là, exactement, on ne se doute pas de vos immenses carrières. Tu es reçu à Clairefontaine, mais la première année ne va pas très bien se passer quand même.
Non, elle ne va pas bien se passer parce que mon entraîneur, c'est Christian Damiano. Donc, je l'ai su par la suite. Heureusement que ce n'est pas lui qui a fait les tests d'entrée, du moins qui a coché la cage des joueurs retenus sur les 24, là, sur les 800 à la base, parce que je pense que j'aurais jamais été dans cette liste-là. C'est quelqu'un qui privilégiait, comme beaucoup d'entraîneurs et formateurs, avant tout le physique dans un premier temps. Et c'est sûr que physiquement, j'étais un des plus petits. Donc,
t'avais pas terminé ta croissance.
Bah, non, loin de là. Non, mais c'est vrai, j'étais tout frêle. J'étais un des plus petits. Le plus petit, c'était Eric Citruc, qui est un très bon ami, encore aujourd'hui. Et j'étais le deuxième plus petit et le plus frêle, certainement, parce que j'étais pas du tout développé. J'avais des jambes, c'est mes avant-bras aujourd'hui. Donc,
restons sur la première année, ouais, où tu joues quelques bouts de match. Il faut rappeler quand même qu'à 12 ans, le dimanche soir, t'arrives à Clairefontaine, tu restes jusqu'au vendredi, et donc c'est assez compliqué pour un jeune joueur. Ton papa, Jean-Pierre, s'en souvient de cette première année.
Jusqu'à Noël, ça a été compliqué. Le vendredi, il rentre à la maison, j'allais le chercher, et puis il rentre à la maison pour le week-end, il joue avec son club, le dimanche, dans la soirée, ouais, je le ramenais à Clairefontaine, et je le laissais là-bas. Et au départ, quand je le laissais, déjà dans la voiture, il disait pas grand-chose parce que, bon, il en avait reçu le cœur. En arrivant là-bas, bon, il pleurait un petit peu quand je repartais.
Ouais.
Tu t'en souviens ?
Ouais. Déjà, tu me fais pleurer au bout de 3 minutes, mais parce que mon père a eu un rôle incroyable. Et... Ah putain, j'ai du mal. Mais non, mais parce que... En fait, ça a été extrêmement dur sur les 6 premiers mois, vraiment. J'avais ça dans la tête depuis tout gamin, de, comme je te disais, tu vois, de remplir ces images Panini, d'être focalisé sur le foot, parce que je suis encore aujourd'hui un vrai passionné de football. Je bouffe du foot, c'est ma vie. Et mon père m'a aidé là-dessus parce qu'il a toujours été là. Alors ma mère aussi, attention à son niveau aussi. Mais mon père, il avait le mauvais rôle en fait, parce que sur les premiers mois de Clairefontaine, je suis sûr qu'il s'est rendu aussi responsable. Du moins, il a pris ça pour lui en se disant c'est moi qui l'ai inscrit, qui ne l'ai pas poussé, mais qui l'ai inscrit dans un premier temps. Et donc, il avait le mauvais rôle, c'était de me ramener le dimanche soir. Et le dimanche soir, c'était horrible. Vraiment, sur les 6 premiers mois, c'était horrible. Parce que dans la voiture, je me souviens exactement le nombre de kilomètres qu'il y avait entre Meudon et Clairefontaine. Le passage qu'on prenait. Et je me disais, mais va plus lentement. Tu vois, il va un peu vite. Parce que mon père, je sais de qui je tiens là-dessus pour conduire et appuyer sur le champignon, comme on dit. Mais ouais, ça a été très dur. Les trajets, là, c'était interminable. Et il a su... à la fois me rassurer sur les trajets, se remettre en question et me dire plus d'une fois, écoute, si ça va pas, on arrête. Il faut pas que tu te forces. Mais moi, je voulais avoir cette force mentale là pour y arriver. Donc voilà.
Justement, à la fin de cette première année, ton formateur, tu l'as dit, Christian Damiano, va parler à ton papa. Parce que ça ne s'est pas très bien passé, parce que lui, il ne recherche pas forcément des joueurs comme toi. Jean-Pierre, ton papa nous raconte la suite.
Christian Damiano, l'éducateur qu'il avait, bon, il voyait que les malabars. On avait chaque parent avait rendez-vous avec lui pour parler de la saison qui venait de se passer. Et c'est là qu'il m'a dit ça serait bien que vous le repreniez chez vous parce qu'il fera pas carrière. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. Moi j'ai refusé. Est-ce que le retirer. Puis Jérôme voulait pas. Hein, en plus, hein. Jérôme voulait pas.
Ouais. Tu feras pas carrière.
Ouais, comme quoi, tu vois, non, mais il y a des choses qui mon père a eu l'intelligence, parce que bon, il s'en souvient pas forcément, mais si, mais il se souvient de cette discussion, parce que c'est des discussions qui marquent. Mais sur le moment, il m'a rien dit. Il m'a juste dit, voilà, si c'est dur psychologiquement de couper le cordon avec la famille, parce que c'est exactement ça, à 13 ans, tu vois, tu coupes le cordon. J'étais très proche de mes parents, très proche de ma mère, j'étais jamais parti de la maison, si ce n'est sur des petits tournois de 2 jours, mais mon père était toujours là, si tu veux, donc il a eu cette intelligence de me dire que ça, mais pas de me mettre en garde sur ce que disait l'entraîneur.
Heureusement que tu n'as pas lâché, et c'est un petit peu l'histoire de ta carrière, en tout cas de ton début de carrière. Heureusement, Christian Damiano va voguer vers de nouvelles aventures, et c'est Francisco Filho, tu en as parlé il y a quelques instants, qui va reprendre la promotion 91 pour la deuxième année, et lui, bah, il va faire de toi un titulaire.
Ah, lui, il m'a transformé, vraiment. Si je retiens un élément important dans ma carrière de foot, on peut retrouver et mettre en avant des entraîneurs professionnels qui t'ont lancé. Mais en tant que formateur, pré-formateur, c'est lui en fait, c'est lui, c'est la base. Déjà, pourquoi, quand je te parlais de la sélection, cette fameuse sélection de 800 au départ, et pourquoi je suis arrivé là, c'est grâce à lui. C'est lui qui cochait le nom des joueurs. J'étais pas le seul qui mettait plus en avant la qualité technique, la vision du jeu, que le côté athlétique. Et donc oui, je le remercierai jamais assez.
Et puis, printemps 94, Clairefontaine va s'arrêter au bout de 3 ans et tu vas partir à Caen. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. La boîte à souvenirs de Jérôme Bretagne sur RMC. Un nouveau papier avec toi, Jérôme.
26 mai 2004.
Petit saut de puce.
Ah ouais.
C'est quoi comme date, ça?
26 mai 2004, écoute, c'est la finale de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco.
Monaco-Porto. Ouais. Je vais rapidement remuer un petit peu le couteau dans la plaie.
Centre.
Oh, but.
Et 39e minute, Porto mène 1-0.
En retrait. Aïe.
Et voilà.
Aïe.
Et voilà, il a failli siffler au milieu du terrain. Il a mis son sifflet à la bouche, il n'a pas sifflé.
La faute est sur Morientes.
Je veux pas dire, il y a vraiment faute.
Ah oui, il y a faute complètement.
Là, c'est fini.
Là, c'est fini. Bon, à une seconde près, la Ligue des Champions cette année sera donc portugaise. Et Jorge Costa et Vitor Baia peuvent soulever donc la
49e
Champions League.
Ça te fait quoi d'écouter ça?
Ce moment à la fois est terrible parce que c'est une énorme déception de perdre, d'être à 90 minutes, voire 120 minutes, de lever la plus belle découpe qui peut exister en club. Retracer le parcours, comment on a pu y arriver. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Parce que sur le moment, on est dans l'excitation. Tu es dans une saison, tu réadaptes tes objectifs, tes ambitions, parce qu'on était très fort. Tu as tapé la finale avec des champions sans être très fort collectivement et individuellement. Et d'être passé un petit peu à côté de cette finale, ça c'est beaucoup de tristesse. Mais avec le recul, même ce que je fais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je suis devenu consultant numéro 1. Non, je plaisante, mais je suis devenu quelqu'un qui parle beaucoup, qui transmet sa passion, qui est grâce aussi à l'image que j'avais en tant que footballeur, et forcément l'image première, du moins le summum de ma carrière, c'est cette année-là et c'est ce jour-là. Finale de la Ligue des Champions, tout joueur de football, je leur souhaite de vivre ça.
Donc c'est pas une cicatrice?
Non, c'est pas une cicatrice parce que c'est tellement d'efforts, vraiment. Je me suis sublimé sur ce parcours et ça, c'est plus une fierté qu'autre chose. Après, je vais pas te dire, il y a qu'un club qui l'a gagné, c'est l'Olympique de Marseille, t'imagines, dans toute l'histoire du football français. Donc oui, d'être à 90 minutes, voire 120 minutes de quelque chose qu'on avait imaginé très 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 loin au début de la campagne et se rapprocher, oui, c'est, tu te dis, bah, si on avait été au même niveau que sur les matchs d'avant... Je pense qu'on n'aurait pas été loin de la gagner.
Alors tu en as parlé, hein, c'est forcément une épopée magnifique pour l'AS Monaco. Et ce qui est dingue, c'est que au moment du tirage au sort, mais là je parle un an auparavant, ouais, vous étiez persuadé d'aller en finale.
Et c'est fou parce que c'est vrai que quand on voit le tirage et on s'était fait un plan, voilà, là il faut qu'on gagne là. Tu vois, entre nous, on se dit bon bah avec 10 points, on peut y arriver, on va être en 8e et puis après bah match aller-retour, il peut tout se passer et puis en fait l'appétit vient en mangeant hein, et quand on arrivait à se rassurer et c'est vrai que le déclic, je pense de se dire avant le tirage ou juste après le tirage, en effet, c'est quand la finale, c'est le 26 mai, ok, on a envie d'y être. Le déclic, c'est surtout la confiance après ce premier match à Eindhoven, où aucun club français n'avait gagné là-bas, aucun. On s'attendait à une ambiance très très chaude, qu'il fallait élever notre niveau parce qu'un match à l'extérieur avec des champions, quels qu'ils soient, et ça on s'en est rendu compte, et par la suite aussi, qu'un match à l'extérieur gagné dans ce genre d'ambiance, et ben, il faut vraiment être très très fort, individuellement mais surtout collectivement, et qu'on le gagne à Eindhoven ce match-là, dans la difficulté, mais on le gagne. Et là, je peux te dire que là, il va falloir venir nous chercher derrière parce que là, on est quasiment injouable, imbattable pour nous.
Alors, je pense que l'expression n'est pas galvaudée, mais c'était une vraie équipe de copains, ouais, à Monaco à cette époque. Ils pensent quoi, tes copains, de toi, tu penses ?
Oh, que j'étais le magicien de l'équipe.
Alors, eh bien, tu sais quoi ? On va écouter Fernando Morientes, ouais, qui parle de Jérôme Roten. Nous l'avons eu spécialement pour cette émission.
Je crois que ça a été un des...
Je crois que c'est l'un des joueurs les plus importants et même l'un des meilleurs joueurs qu'a croisé ma route. C'est un joueur exceptionnel. Il ne pensait pas à marquer des buts. Lui, il voulait toujours donner le dernier ballon. Et c'était un centreur exceptionnel à mes yeux. C'était un plaisir de jouer à ses côtés. J'ai toujours dit, dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs autour de moi. Et l'un des meilleurs centreurs côté droit, c'était probablement Luis Figo. Et à chaque fois qu'on me demande le plus grand centreur côté gauche, bah je réponds toujours Jérôme Roten. C'est le joueur le plus spécial avec qui j'ai joué côté gauche.
Ouais, écoute, je peux que le remercier, Nando, parce que c'est un hommage fantastique. Et Nando était, quand je te disais magicien, en déconnant, mais lui, par contre, c'était la classe, l'élégance sur le terrain. Il nous a rapporté cette expérience-là parce que lui venait du Real Madrid. Un mec adorable, d'une humilité incroyable. Et puis surtout, voilà, un mec qui aimait les grands matchs. Autant il y en a certains qui brillent sur les petits matchs. Lui, les petits matchs, ça ne l'intéressait pas. Des fois, Didier Deschamps le sortait à la 45e quand on jouait. Attention, avec tout le respect que j'ai pour Le Mans à l'époque et d'autres clubs, parce qu'il était inexistant. Mais par contre, les grands matchs, tu savais que là, il était en mode warrior. Et moi, en effet, comme il le dit, moi, je voulais mettre en lumière et en avant mes attaquants. C'était mon rôle dans l'équipe. Mais jouer avec un attaquant comme ça, où tu savais, c'est pas l'attaquant qui vient te proposer, si tu veux, qui va te faire un appel en première intention. Lui, il attend, il sent les coups, en fait. C'est alors, c'est pas le même joueur, mais David Trezeguet était un peu comme ça aussi. Et c'est des mecs qui, si tu veux la mettre au premier, tu sais que lui, il va être dans l'espace libre, il va y être parce que bah, on parle de vision, d'intelligence de jeu, c'est ça. Et puis après, je ne te parle même pas de la qualité de son jeu de tête. Je dis à tout le monde, aux auditeurs qui écoutent là, allez voir ce but-là parce que son jeu de tête, il est fabuleux. Voilà, donc
on en reparlera peut-être un petit peu plus tard de ce moment face au Real Madrid dans la boîte à souvenirs. Avec Jérôme Roten, un nouveau papier avec toi dans cette boîte à souvenirs.
Voilà, relève-toi, fils de...
On va le dire.
Fils de pute.
Relève-toi, voilà. Fils de pute. Qui te dit ça?
Oh, ben, un grand joueur. Un très grand joueur, Dieu, comme certains le disent, Zinedine Zidane en 2004.
On est le 6 avril 2004. D'ailleurs, tu parlais de Monaco-Real. On va se rappeler ce moment, mais aussi le but de Morientes, mais le moment où il y a ce litige avec Zidane.
La frappe de Gioli et le Belgique ! Oh, l'égalisation pour l'AS Monaco avec une passe au millimètre de la tête remisée par Fernando Morientes sur cet excellent ballon de Jérôme Roten.
Roten qui essaye de dribbler un deux joueurs. Le long centre de Patrice Evra, la tête de Morientes. Et c'est le but pour l'AS Monaco.
Passement de jambe à droite à gauche, il va refixer le pied gauche, il va la mettre dedans. La frappe est le but. Et le but de l'AS Monaco. Oh, le troisième but de l'AS Monaco. Il est signé Ludovic Gioli.
Je suis désolé, Zizou. Ça mérite un carton. Cette faute sur Jérôme Roten, ça mérite un carton. Pourquoi pas réaliser l'exploit? Pourquoi pas réaliser ce miracle? Et regardez Roten qui vient eh bien, se jeter là devant le public.
C'est un super moment, évidemment, avec Monaco incroyable. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais il y a une tâche, c'est cette insulte de Zidane. Ouais.
Bah, Doumé Poulain, hein, que je salue parce que... Il m'en a donné des frissons là, tu vois. Moi, je les avais pas écoutés, hein. Ça, c'est bandes son avec Jeannot. Donc déjà, je les embrasse tous les deux. Ils ont été fabuleux comme d'habitude, hein, de toute façon, aux commentaires. Mais après, oui, parce que c'est un point noir pour moi dans ma carrière et dans la relation que je pouvais avoir avec Zizou. C'est que on se connaissait. De l'équipe de France, alors plus moi que lui, bien sûr, hein, je vais pas te. Mais moi, je sais pas, bon, j'y sais, on se connaît déjà depuis un petit bout de temps maintenant. Tu vois comment je peux être dans la vie, même si c'est chez ce côté très chambreur, beaucoup de second degré, mais je suis très respectueux en fait. J'ai été élevé comme ça, éduqué, j'en suis fier d'être comme ça. Et que pour moi, la hiérarchie, elle est importante. Elle mérite le respect et que donc ça commence par les plus vieux dans un vestiaire, c'est important. Quand tu arrives en équipe de France, moi je suis jeune, je t'imagine que je les ai idolâtrés pendant des années, champion du monde, champion d'Europe, c'est fantastique. Et j'ai la chance d'être dans ce groupe-là, France, d'intégrer ce groupe-là grâce à mes performances. Mais pour moi, j'arrive sur la pointe des pieds en équipe de France. Dans le château, tu montes les marches. Je me souvenais quand j'avais 13 ans, j'étais à Clairefontaine. Donc tout ça, si tu veux, montre que je suis arrivé pas sûr de moi. Il y en a certains qui arrivent sûr d'eux et qui peuvent prendre certains de haut. Et je pense que ça passe mal.
Mais toi, tu comprends pas à ce moment-là pourquoi Zidane t'insulte.
Je comprends pas parce que j'ai une relation en équipe de France avec lui, comme avec tous les anciens, mais encore plus avec lui. Je te dis pas qu'elle est parfaite parce que Zizou c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup.
Mais pourquoi il te dit ça? C'est quoi? Il y a une vraie faute sur
non,
toi enfin...
Oui, bah en fait il y a une faute. J'en rajoute, mais on est en fin de match, on mène 3-1 et Doumé et Jeannot le disent aux commentaires. C'est que le but c'est de que le chrono passe vite, ça, que ça tourne vite et que je gagne du temps. Alors oui, il perd le ballon. Je veux repartir sur la gauche, il me met un tacle un petit peu par derrière, j'en rajoute, j'ai rien. J'en rajoute, je crie comme Neymar a crié il y a pas longtemps, mais en fait, mais moi j'ai rien. Donc, et là, bah, y a de la frustration de sa part, parce que là, ils se prennent une claque, le Real Madrid, les Galactiques, t'imagines, se faire éliminer par le petit Monaco, après avoir gagné 4-2 au match aller. Oui, ils ne s'y attendaient pas à ça, à ce match de folie. Et donc, la frustration, je la comprends, l'énervement, je peux la comprendre. Ces mots-là, je ne les comprends pas par rapport à quelqu'un que tu connais. Où tu as été dans le vestiaire avec lui, tu t'es entraîné avec lui, tu as joué avec lui en sélection. Je te dis pas qu'on est les meilleurs amis du monde, parce qu'encore une fois, je le connais plus moi que lui me connaît. Mais quand même, on a des insultes sur le terrain, ça peut arriver. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Mais envers quelqu'un avec qui tu as partagé le même maillot, le même vestiaire, tu t'es assis à côté, je pense qu'il y a des limites. Mais encore une fois, ça peut arriver. Mais le tout, c'est de s'excuser derrière et de venir, j'ai fait une connerie, voilà. Lui, au contraire, ça a été une fracture entre nous deux. Et ça, je l'ai jamais, c'est une incompréhension. Mais la fracture, elle a duré. Hein. Parce que derrière, il y a eu d'autres choses.
Hein. Exactement, et on va en parler dans quelques instants. On va juste écouter ton papa, Jean-Pierre, sur ce moment, cette insulte.
Moi, j'étais au match Monaco-Real. Zidane, il l'a quand même prêté fils de pute. Hein, donc, à quoi que dise M. Zidane, bon, que d'un autre côté, j'adore, hein, c'est un super joueur. Hein, mais il a jamais reconnu qu'il avait dit ça. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien.
C'est pas bien. Et comme
non,
tu
c'est
dis...
pas bien parce que à travers le discours de mon papa, il sait lui que ça m'a marqué, ça m'a fait mal, très mal, et que derrière, en plus, ça s'est pas arrêté là. Et c'est pour ça que j'en parle dans mon livre parce que il y a c'est plein d'anecdotes et c'était pas faire comme Zinedine Zidane a pensé ou son entourage ont pensé que je mettais ça en avant pour vendre mon livre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça n'a rien à voir. Ça fait partie de ma vie et c'est des incompréhensions. Ouais.
Et ça a marqué une rupture, hein, on le disait. Il y a l'Euro 2004 qui arrive et c'est juste après le match Monaco-Real. Et là, il n'y a plus de lien dans le vestiaire.
Non. Non, parce qu'en plus de ça, malheureusement, l'Euro 2004 clôture une fin de saison terrible pour moi parce que je perds la finale avec des champions, je perds le titre de champion de France. On perd le titre, mais je le perds aussi sur les dernières journées alors qu'on a 10 points d'avance sur Lyon. Je fais peut-être la meilleure année au niveau de la régularité, constance au très haut niveau. Et puis tu fais l'Euro où tu sens un groupe, on a une équipe de malades au départ. Quand tu vois l'équipe sur le papier, tu te dis « mais on doit être champion d'Europe ».
Alors Zidane prend sa retraite internationale à la suite de cet Euro, le 13 août 2004. Et un an plus tard, à l'été 2005, il se passe ça.
Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux, ému et impatient de retrouver l'équipe de France, Zinedine Zidane a exposé ce matin les raisons de son retour. Pour lui, les pressions sportives et économiques ne sont pas ses principales motivations.
Et là encore une incompréhension entre vous deux, parce que toi tu apprends son retour en 2005 quand tu es au camp des loges avec le PSG.
Exactement, on est au camp des loges, on finit l'entraînement, derrière donc il y a la nouvelle qui tombe. Forcément, les médias dont tu fais partie, mais tu n'étais pas là sur le coup.
J'étais trop jeune.
Ouais, viennent pour prendre les premières déclarations des joueurs qui sont en équipe de France, dont moi et Vikash Dorasso à l'époque, au PSG, on était deux. Donc moi, je réponds en toute logique. Voilà. Derrière, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je réponds à ces questions-là. Tout va bien, oui, je suis content. Bah, c'est très bien pour l'équipe de France, de toute façon, qu'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football français revienne sur sa décision et vienne nous aider pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2006, il n'y a pas de problème. Au contraire, il n'y a pas de même s'il y a eu cet épisode-là avant, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et en plus, ce n'est pas le seul à revenir. Donc, ça va nous apporter un plus. Et derrière, donc, je réponds à ça. Je vais voir les supporters, comme d'habitude au camp des loges, je signe des autographes, je fais des photos. Et puis là, France Télévisions arrive en retard. Alors après, est-ce que c'est un problème d'âge du journaliste où ils ont mis du temps à venir et ils ont raté l'heure, ils étaient à l'ancienne heure. Donc ils arrivent, moi j'ai fini, je vais pour reprendre ma voiture et puis là ils me demandent « Jérôme Bretagne, une réaction sur le truc ?» Je dis « Non mais attendez, vous n'avez qu'à venir à l'heure, j'ai déjà parlé un quart d'heure avant, laissez-moi tranquille, c'est bon, j'en ai assez parlé. » Problème, c'est que cette scène-là, elle est filmée et que le dimanche, donc dans Stade 2, il y a les pour le retour de Zinedine Zidane et les contre, et moi ils me foutent dans les contre. Ouais, il a pas voulu répondre le truc. Non mais c'est incroyable de donner cette image là alors que ça n'a rien à voir avec le retour de Zizou. Je suis qui moi pour dire Zinedine Zidane je suis pas content qu'il revienne? Alors certains ont fait l'amalgame si tu veux de ce qui s'était passé avant. En plus, certains ont même dit « Oh, c'est de la concurrence, il n'a pas envie de concurrence. » Mais en quoi je suis en concurrence avec Zinedine Zidane? Personne ne pouvait être en concurrence avec Zinedine Zidane. Donc, donc, si tu veux, ça a donné...
Un reportage qui va te faire pas mal et qui va te causer du tort, qui va te faire du mal. 17 août 2005, on est donc quelques jours après, le fameux retour, c'est ce France-Côte d'Ivoire à Montpellier. Et tu entres à la 71e minute.
Il avait fort à faire. Champion avec Liverpool, Djibril Cissé et Florent Malouda. Malouda, quatrième sélection et de plus en plus convaincant dans ce groupe tricolore au CRC. Hein.
Oui.
Et voilà Jérôme Rotten, auteur d'un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain.
Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? c'est... On parle de points noirs dans ta vie de footeux. Je pense que celle-là en sélection, c'est mon point noir. Ouais. Rentrer hué comme ça à Montpellier. Alors certes, certains m'ont dit « Ah ouais, c'était plein de Marseillais, la rivalité Paris-Marseille, ça peut se comprendre. » Ouais, ok, ça peut se comprendre. Mais t'as le maillot de l'équipe de France. Donc tu représentes ton pays. Et tu te prends des huées. Alors des huées à mon entrée. Et vous l'avez noté, hein, tous les remplaçants qui sont rentrés, qui sont sortis, les joueurs qui sont sortis sont ovationnés. Nous, moi, je suis hué. Et le pire, c'est que sur ce match-là, dès que je touche le ballon, je prends des broncas. Donc là, vraiment, il faut être costaud. Il faut être costaud dans la tête, il faut être costaud après, parce que c'est un poids important, quoi.
Et ton papa est dans les tribunes. Ouais. Et il s'en souvient très bien. Ouais.
Je pense pas qu'il y ait que le commentaire que les journalistes avaient fait, hein, à Montpellier, c'est pas loin de Marseille, hein. Il y avait pas mal de Marseillais, et comme ils en voulaient aux Parisiens, donc au PSG, donc c'est pour ça à chaque coup qu'il avait le ballon, il avait le droit à une bronca. Mais c'est sûr que c'est dur, hein. Heureusement qu'à côté le gars qui était à côté de moi, il sifflait pas parce que je crois que je lui mettais une droite.
Alors... Ouais, mais tu vois, alors mon père qui m'a suivi partout, forcément, dès qu'il y avait une sélection, je faisais en sorte qu'il vienne. Mais ça m'a fait mal, mais j'imagine lui ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, moi, ça fait un bout de temps maintenant que je suis papa, je me dis, mais c'est horrible ce qu'il a dû vivre. Parce que moi, je l'ai vécu sur le terrain et j'ai une façon d'essayer d'assumer tout ça. Mais lui, il est impuissant et il comprend pas. Alors oui, comme il dit, il y a pas que l'ambiguïté là sur le retour de Zizou. Il y a les supporters marseillais. C'est une façon de se voiler un petit peu la face parce que c'est surtout sur le retour de Zizou.
Et tu participes à, je le disais, toute la campagne de qualification pour cette Coupe du Monde 2006. Ouais. 14 mai 2006, la liste de Raymond Domenech tombe et il dit ça.
Il y a un caractère particulier pour ceux qui jouent. Et quand on fait une liste, on constitue d'abord ceux qui jouent, puis après ceux qui seront les remplaçants de ceux qui vont jouer. C'est de faire admettre ça à tout le monde et de savoir qu'il y a des gens qui ont un caractère pour jouer et qui sont capables de supporter la pression d'une Coupe du Monde au plus haut niveau. Et il y en a d'autres qui doivent derrière abandonner tout orgueil en se disant qu'ils savent qu'ils sont là pour être les remplaçants de ceux qui vont jouer au départ. C'est pas facile.
C'est à toi qui s'adresse ?
Bah, je sais pas, je suis pas dans la liste. Je suis pas dans la liste à ma grande surprise. Comme tu l'as dit, j'ai participé à tous les matchs de qualif, quasiment tous les matchs de qualif. Quand j'y étais pas, c'est que j'étais blessé. Le dernier match avant cette fameuse liste. Tout s'était assez bien passé, donc il n'y avait pas de raison que je ne sois pas au moins dans la liste élargie.
Ta conviction, c'est que tu es un peu blacklisté par les tauliers.
Exactement. Mais de toute façon, quand il y a eu le retour de Zidane et d'autres, plus la relation avec Barthez, tu sais, c'est pas anodin. Quand il est venu me voir pour Raymond Domenech pour me demander, il y a un problème avec Fabien Barthez. Et le problème, c'est que cette liste-là, comme ça s'est passé, ça m'a donné raison à plusieurs niveaux. Mais j'ai eu des échos derrière, des échos des gens qui ont participé en 2006. Alors je vais même pas les citer parce que j'ai pas envie de les mettre en avant. Mais il y a des joueurs qui étaient importants en plus dans cette équipe en 2006 à la Coupe du Monde en Allemagne, qui m'ont dit, ouais. Ton nom est arrivé, quand on parlait à des anciens avec le coach, le staff, ton nom est arrivé. Bon, on a compris que ça pouvait pas, tu ne pouvais pas être là.
Et après cette Coupe du Monde, Zidane va vraiment prendre sa retraite internationale et tu vas donc être de
c'est
retour.
Bizarre.
Donc, je ne sais pas.
Non,
mais
c'est vrai que... Attends, t'imagines, toi tu rigoles, mais moi maintenant ça me fait rire avec le recul parce que... Mes performances étaient bonnes en 2006, donc je ne suis pas appelé. Ils font quand même finale de la Coupe du Monde, donc il a un groupe qui est très clair. Zinedine Zidane s'arrête comme d'autres, mais bon, ça c'était programmé de toute façon. Et que le premier match de reprise, en l'espace donc de deux mois, du moins un mois de vacances, une reprise du championnat où j'avais bien démarré avec le PSG, mais où je n'avais pas changé de style de jeu, je ne me suis pas transformé en l'espace d'un mois de vacances et de préparation. et ben là, je suis rappelé.
Et tu vas participer aux qualifications pour l'Euro 2008. D'ailleurs, ce principal fait d'armes, ton principal fait d'armes en équipe de France...
Le plus beau coup franc de l'histoire.
C'est le 13 octobre 2007. C'est où?
C'est un déplacement compliqué aux îles Féroé, parce qu'une très grande équipe.
La terrible équipe des îles Féroé.
Non. Il va le laisser agir en Bretagne.
Pour un gaucher.
Effectivement, on l'a laissé passer.
Le cadre.
Voilà les buts.
Le cadre.
Superbe but, pleine lucarne, Jérôme Bretagne.
C'était mieux pour un gaucher. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour un gaucher, ce ballon. Et avec... un ballon, et là les gardiens de but, ils sont dans une situation très compliquée. Oui.
Et c'est son premier but en équipe de France, Jérôme Rotten. D'où sa joie.
Et lui non plus n'aura pas fait le voyage pour rien.
Impeccable.
Jérôme Rotten.
Ouais, il me connaissait bien, Nice Véroé. Mais déjà marqué avec un but avec ta sélection, je crois que. T'as des rêves quand t'es gamin, mais je pense que celui-là, jamais j'aurais pensé l'atteindre. Donc oui, t'imagines que c'est une fierté incroyable, même contre les îles Féroé. Et puis c'est tout ce qu'on vient de dire sur le passé en équipe de France, c'est une façon de dire voilà, peut-être que là, en effet, je me suis imposé façon de parler et que je vais avoir le droit encore à une autre compétition, même si pas une Coupe du Monde, mais c'est un Euro.
Exactement, il y a l'Euro 2008, tu fais la campagne de qualification. Raymond Domenech se présente devant les médias pour sa liste de 30 joueurs.
Ouais.
30 joueurs pour l'Euro 2008. Et je n'ai pas vu de Jérôme Rotten. T'en fais pas partie encore une fois.
Non, alors là, il n'y a pas le retour des anciens. Là, c'est sa responsabilité, en fait. Parce que, je te dis, la dernière sélection s'est passée comme ça. Donc, avec le groupe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tension. Au contraire, les joueurs avec qui c'était tendu n'étaient plus là. Ça se passait très bien. Je commençais à avoir un peu de bouteille aussi en équipe de France. Donc, pour moi, c'était logique d'être retenu déjà dans la liste, mais alors encore plus dans les 30. Mais là, rien. Même pas dans les 30. Et même pas un coup de téléphone avant.
Tu te souviens comment tu es à ce moment-là? Comment tu regardes la liste?
Je suis... franchement, je pense pas une seule seconde revivre ce que j'ai vécu en 2006. Donc, je suis assez détendu par rapport à ce qui m'a fait. En plus, la saison me donne raison parce que la fin de saison se passe bien pour nous. On se maintient à dernière journée, ok. Mais voilà, on fait une grande finale de Coupe de France aussi contre Lyon, même si on perd dans les prolongations, mais on doit gagner. Et derrière, donc, la même chose. La même chose. Et alors là, je suis abasourdi. Et là, je me dis, malheureusement, c'est la fin.
La boîte à souvenirs avec Jérôme Rotten sur RMC. Un nouveau papier dans cette boîte avec toi. On a été long, c'est vrai, un petit peu sur l'équipe de France.
Il chose du 40 et demi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Il chose du 40 et demi, c'est... On est le 9 mars 2004, tu es à Monaco et c'est le jour où tu vas donner une interview à France Football. Et le titre de cette interview, c'est « Il chose du 40 et demi ». Tu choses bien du 40 et demi?
Oui.
Oui, c'est bon. Et il y a, j'ai retrouvé évidemment cette interview, et il y a ce qu'on appelle le petit chapeau, la présentation de l'interview du journaliste. Je te propose de me la lire.
Les techniciens sont, c'est souvent des petites pointures. Zidane, c'est l'exception qui confirme la règle. Jérôme Rotten se marre alors que Patrice Evra ne revient pas de voir son copain se faire photographier le pied. Non, arrêtez, c'est trop. Le défenseur Hilar embrasse les orteils du milieu blond.
C'était une autre époque, hein.
Ouais, c'est une autre époque. Ouais, vous avez bien entendu. Patrice Evra m'embrasse le pied. Non, alors cette interview, pour tout dire, franchement, elle ne me dit pas grand-chose.
Je te jure qu'elle existe.
Oui, non, mais je te crois. Non, je te crois. Et par contre, le fait, en effet, de dire que les techniciens, c'est souvent des petits pieds. Oui, je te confirme.
Oui, mais je voulais pas forcément venir sur le 40 et demi.
Non, ça j'imagine. Je te vois arriver.
Mais pour parler de cette relation avec Patrice Evra qui est forte à Monaco, tu es témoin de son mariage?
Ouais, on est...
Quelques semaines plus tard, tu vas faire une autre interview avec Patrice Evra, juste avant la rencontre face au Real, le quart de finale, on en a déjà parlé. Vous allez raconter quoi lors de cette interview?
Bon, on va raconter... En fait, c'est comme je te disais, l'insouciance ou d'être sûr de sa force, c'est que quand on tire le Real Madrid, c'est sûr qu'il y a Galactic à droite, t'as Figo, Beckham qui peut y jouer, Salgado derrière. Bon, ça fait quand même Figo, hein, Ballon d'Or. Et que nous, on dit, on n'a rien à envier au Real Madrid. Figo, Beckham, Salgado. Nous,
le milieu gauche de Monaco, Evra Roten, vous n'avez rien à envier au Galactique.
Exactement. Donc, en fait, on le dit comme ça, un petit peu à la déconnade, en charriade. Et puis, voilà. Après, on sait aussi qu'il faut assumer sur le match aller et le match retour. De toute façon, quand tu tiens ce discours-là, mais c'était aussi une source de motivation pour nous. Peut-être qu'on voulait faire monter la pression. Sauf que là, on s'est fait taper sur les...
Par Didier Deschamps.
Ah oui. Ah oui, on s'est fait taper sur les doigts. Là, mais bon, encore une fois, parce que Didier, il était à l'affût. En fait, lui, ça hantise à Didier, parce que on le voit dans sa com comment il est, même quand il était joueur, il essayait de nous mettre des choses dans la tête quand on parlait aux médias, faites attention, leur donnez pas trop à manger, ceci, la langue de bois, vous connaissez, moi je vais vous la faire, nanana. Sauf que nous, avec Pat, on était à l'opposé de tout ça. Mais en plus, on pensait pas, et souvent quand on se retrouvait dans la chambre, c'est ce qu'on disait. On disait, bon, ils nous cassent la tête avec ces trucs. Ben, dans ces cas-là, on ne parle pas aux médias. Mais si on leur parle, c'est pour dire ce qu'on pense, en chambrant aussi, parce que c'est notre caractère, notre personnalité. Et là, oui, il nous a tapé sur les doigts, parce qu'il a dit, mais vous rendez compte, on va jouer le Real Madrid. C'est l'équipe favori pour la Ligue des Champions, les Galactiques. Et vous tenez ce discours-là, mais vous allez les exciter. Donc, au lieu de faire pas les canards, mais les petits, rien dire, vous, voilà, et nous, on le avait dit, mais on va répondre présent.
D'ailleurs, les boulards de Monaco, hein, le côté gauche, Patrice Evra, Jérôme Roten, toujours fourrés ensemble, un jour, Didier Deschamps va vous emmener chez lui. Ouais. Et là, il va se passer une scène assez incroyable parce qu'il veut vous faire prendre conscience de quelque chose.
Ouais, parce que Didier, il a ce... Bon, déjà, on va pas refaire son histoire de joueur, mais il a tout gagné quand il est joueur. Donc, en fait, quand on arrive chez lui, quand tu arrives chez lui, tu entres dans dans son séjour. Bon, son petit séjour, hein, qui fait 100 mètres carrés, non, je plaisante. Il nous dit, ouais, asseyez-vous. Et là, en fait, c'était certainement fait exprès, mais il y avait les trois coupes. Les trois plus belles coupes qu'un footballeur rêve de gagner, c'est-à-dire la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe et la Ligue des Champions, et qui sont sur la télé. Et donc nous, on regarde, on dit, enfin, quand même, le salaud, il a gagné autant avec les pieds qu'il avait, tu vois. Mais tu vois, toujours essayer de... Et là, il nous voit, il dit, ouais, ah bah vous pouvez regarder, ouais, bah, bon, vous avez qu'à ouvrir le tiroir sous la télé, il y a les mêmes, mais j'ai pas assez de place. Hein. Donc, il y a d'autres répliques encore en dessous, tu vois. Donc, pour nous montrer à quel point il fallait l'écouter, parce que lui avait tout gagné.
Et il fallait l'écouter, et c'est vrai que je parlais un petit peu de cette relation avec Patrice Evra qui était extrêmement forte. L'époque, vous le savez, chers auditeurs, a changé depuis. C'est parti en vrille depuis ce jour de Paris Saint-Germain à Manchester United et l'élimination du PSG. On est le 6 mars 2019. Et Jérôme Roten, tu vas dire ça.
Mais alors le pire de tout, c'est que Patrice Evra se permet de faire la vidéo dans ce carré, entouré de gens qui payent pour que le club avance, qui payent, qui sont sponsors du club, avec des anciens joueurs, avec des gens qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, et il se permet de faire une vidéo comme ça, ici c'est Manchester, ici ceci, ici on est fort, on est trop fort, I love this game, en gueulant à côté des gens qui hallucinent à côté, et personne ne le recadre.
Patrice Evra répondra avec une vidéo insultante. Vous êtes d'ailleurs en procès. On ne va pas commenter les torts des uns et des autres.
Non.
Juste, quelle tristesse, Jérôme, d'en arriver là.
Ouais. Ouais, je suis quasiment sans voix quand je vois qu'on est obligé de passer par un procès. En effet, hein, alors je vais te dire, le procès, il est passé. Donc, ils ont tout annulé. Ils ont annulé parce qu'ils n'ont pas envie de juger ce genre d'affaires, la justice française. Ils n'ont pas envie de se mêler de ça. C'est plus, pour répondre à ta question, c'est plus triste qu'autre chose d'en arriver là, oui. Parce que En effet, j'ai eu une réaction à chaud sur une déception, en effet, que Paris Saint-Germain se fasse éliminer de la sorte. Cette scène de voir Patrice haranguer les gens autour de lui, réagir comme ça à l'arrivée, ça me donne raison aussi sur ce que j'ai dit, parce qu'il s'est fait virer du bas en bas quand il est descendu au vestiaire, parce qu'il était dans une folie, l'euphorie. Et là, ça n'a pas plu à certaines personnes de la sécurité. Voilà, notre relation, elle était particulière. Je pense que ça ne mérite pas une réponse. Ok, tu peux faire une réponse sur les réseaux sociaux, c'est sa marque de fabrique, il n'y a pas de problème, je peux l'accepter, il n'y a pas de souci. Après, d'être insultant, menaçant, de parler de ma famille, alors que c'est lui-même qui dit on a mangé dans la même assiette. Oui, lui, il est venu chez mes parents, il a partagé des moments aussi avec mon père, et de parler de son fils comme ça, je pense que lui n'a pas digéré non plus, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses. Tu peux pas dépasser les bornes comme il l'a fait.
Ça te rend triste ou c'est terminé?
Ça me rend extrêmement triste parce qu'en effet, à travers ce qu'on vient de lire là sur la relation qu'on avait à Monaco, mais même après, je lui avais dit certaines choses à l'époque, mais ça remonte. Peut-être qu'il les a pas digérées, mais tout en restant assez classe. Mais tu sais, moi, pour moi, quand t'es un ami, comme il le disait et son frère le dit, vous étiez comme deux frères. T'as le droit de te dire des choses, même qui sont... Si moi, je lui dis pas les choses, mais qui va lui dire, en fait? Si tu veux le brosser dans le sens du poil, alors qu'on a que des gens qui nous brossent dans le sens du poil tout au long de notre carrière. Dire, si t'as des véritables amis, et j'en ai pas beaucoup, mais c'est pour aussi te dire, quand tu pars en vrille, attention, là, tu fais ça, tu fais ça. Après, peut-être qu'il a pas digéré cette vidéo. Mais là, par contre, oui, pour de bon, c'est fini, parce que il y aura jamais d'excuses de sa part. Ce qui est triste, c'est d'en arriver là, et puis d'être sur la dernière vidéo, d'en dépasser les bornes et d'avoir des propos qui dépassent certaines choses. Il y a des choses qui sont indélébiles maintenant. C'est fini, c'est comme ça, c'est triste, vraiment triste. Être aussi proche comme ça, aussi... je te dis, on était comme deux frères. Et c'est comme ça, c'est décevant.
Je vais te faire écouter Ludovic Juli, ton partenaire à Monaco, justement sur cette histoire, parce que lui, il vit ça aussi, il vous a connus tous les deux.
Bien sûr.
On va l'écouter.
Je comprends de quoi c'est parti. Jérôme, il est fan de Paris, il voit son pote jubilé dans la tribune, ça a dû lui faire mal. Jérôme, il n'a pas réfléchi à ce qu'il disait. Et Pat, il a sauté dans le truc, il a dit « Ah ouais, je me suis fait... » Voilà, et c'est des trucs de gamins. Mais après, c'est dommage, parce que c'était vraiment deux amis, quoi. Je sais pas si un jour, ils vont pouvoir se reparler, mais c'était vraiment deux potes, et franchement, le gâchis pour une réaction, pour une phrase, ça a été très très loin, et c'est dommage de voir ces deux personnes que moi, j'ai connues très très proches, de les voir se déchirer comme ça.
Il a tout dit, Ludo.
La boîte à souvenirs avec Jérôme Roten sur RMC, un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs.
6
septembre 2000, on va Oula. Faire un petit retour en arrière.
Ouais.
Tu te souviens de cette date ou pas? On va pas parler de toutes tes soirées, évidemment, rassure-toi mon cher Jérôme.
Mais 6 septembre 2000,
mais en 2000 c'est le tube de l'année, voilà. Le 6 septembre, tu t'en souviens?
C'était pas dans une boîte à 3, non.
Alors, tu as bon, en tout cas, 50% bon. C'est bien à 3. Tu viens d'arriver à 3, le 3 d'Alain Perrin. Pourquoi tu choisis ce club? Tu étais à Caen, pourquoi tu choisis 3?
Parce que on a tous... Je te parlais tout à l'heure de l'album Panini avec voilà, la marche à suivre pour devenir joueur de foot professionnel.
Et il faut aller à 3?
Non, mais pour moi, il faut découvrir la Ligue 1. Je suis en Ligue 2, je suis en D2 à Caen. Je fais partie d'une génération où on nous met en avant des meilleurs joueurs de Ligue 2. Pour preuve, c'est que la dernière année, je fais partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 au trophée UNFP, où c'est Dado Perchaud, tiens, qui le gagne à l'époque, qui était joueur à Ajaccio. Et donc, oui, ça faisait 2 ans déjà, vu que je suis jeune joueur, j'ai envie de découvrir la Ligue 1, qu'il y a des clubs qui s'intéressent. Et j'avais eu des propositions à l'étranger, en l'occurrence Bologne, je me souviens à l'époque, mais je ne voulais pas partir à l'étranger à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. Je voulais continuer ma marche à suivre, en fait, arriver à passer les paliers en Ligue 1. Et pour moi, avoir un club de Ligue 1 avec des ambitions moyennes, quitte à jouer le maintien, mais découvrir la Ligue 1 pour passer les paliers. Je ne voulais pas arriver dans un grand club tout de suite pour regarder les autres jouer. Je voulais du temps de jeu.
Une étape intermédiaire.
Donc c'était soit Lille à l'époque, il y avait Vaïd Ali Lozic qui voulait me récupérer.
Tu le connaîtras plus tard, rassure-toi.
Ouais, je suis bien content de l'avoir connu plus tard. Et Alain Perrin, quoique Alain avait une certaine personnalité aussi. Et donc, Alain a essayé d'être convaincant. Il a été convaincant en montant une équipe avec un projet de jeu intéressant. Et puis surtout... un volume de jeu qu'il voulait me donner, et à travers tout ça, bah, j'ai choisi Alain Perrin et le club de l'Estac. De l'Attaque à l'époque, qui est devenu l'Estac.
Alors ça, c'est ta réponse. Pourquoi Alain Perrin te prend ? Je lui ai posé la question.
C'était un bon footballeur. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il m'a ébloui par sa vitesse, par ses dribbles. C'était pas un joueur qui tape dans l'œil forcément à la base, parce qu'il fait pas d'exploits individuels. Mais c'est quelqu'un qui... déjà jouait bien et était intelligent dans son jeu. Aussi, il avait la caractéristique d'être un joueur qui était un peu diesel. Il n'avait pas une grande vitesse, une puissance. Mais par contre, sur la durée du match, dans les derniers quarts d'heure ou les 20 dernières minutes, il faisait la différence à ce moment-là, parce que quand les autres commençaient un peu à baisser pied physiquement, lui était encore capable de faire la différence.
Mais au début, les premiers matchs, tu vas être remplaçant.
Ouais, ouais. Et c'est de l'incompréhension pour moi. Parce que, bon, déjà, c'est, même si c'est que 3, tu passes un cap. Déjà, le transfert, parce que pour un club comme 3 à l'époque, m'acheter comme ça, c'est un investissement quand même. Hein, on n'est plus dans les chiffres, on n'était pas dans les chiffres d'aujourd'hui. Hein, donc, c'est un investissement. En effet. Alain prend le temps, me fait jouer sur les matchs de préparation à divers postes. Et puis sur les premiers matchs de championnat, oui, je fais des rentrées en cours de match. Premier match, c'est à Marseille, il me semble. Je rentre à 20 minutes de la fin. Et puis voilà, ça dure. Et puis le moment arrive où je commence à trouver le temps long. Mais c'est que 4 ou 5 journées, je crois. Et puis je vais voir des anciens. À l'époque, il y avait Frédéric Arpinon, avec qui j'étais très proche. Fred a été le meneur de jeu de cette équipe-là. Ça faisait 2 ans qu'il était sous les ordres d'Alain Perrin à Troyes, avait connu des clubs auparavant. Bon, il avait un nom hein, dans le foot. Et Fred me rassurait à chaque fois, me disait « Mais t'en fais pas, écoute, boss, ça va venir, ça va venir. » Et je pense que lui a précipité aussi les choses avec Alain Perrin. Il avait beaucoup une relation particulière, c'était le relais. Et au bout d'un moment, il fallait me lancer. Et oui, il m'a lancé ce fameux jour contre le PSG.
C'est donc le 6 septembre 2000. Première titularisation en Ligue 1. 3 PSG. Un match avec beaucoup de buts. Hein. Vous gagnez 5-3. Il va se passer ça, notamment.
Ça peut être aussi éventuellement pied gauche de Jérôme Rotel. A priori, du coup, il va prendre ses responsabilités.
Non, c'est pied gauche de Rotel. Oh, quel but. Quel oui. but. Quelle égalisation pour toi. De partout.
S'il lui arrive, belle frappe, il a pris ses responsabilités, bien frappé.
Il a pris ses responsabilités.
Ouais.
Et là, tu bougeras plus de l'équipe.
Non, je sors plus de l'équipe.
Et Troyes réalise une des meilleures saisons de son histoire en terminant 7e de Ligue 1, qui gagne la Coupe Intertoto. Il y a eu ouais. 0-0 match aller, 4-4 à Newcastle. Donc ouais. vous êtes qualifié pour la Coupe de l'UEFA. Ouais. Évidemment là, mais c'est normal pour un club comme Troyes aussi, l'aventure va s'arrêter à la fin de l'année. Vous commencez la Coupe de l'UEFA et vous allez vous faire sortir.
Ouais.
Et donc là, bah, toi, on est en décembre et tu ouais. redemandes à Alain Perrin de partir.
Oui, parce que pour moi, déjà, le début d'année se passe très bien. En effet, comme tu dis, on gagne la Coupe Intertoto, on fait ce match à Newcastle qui est fantastique. Le match retour, on fait 4-4 où je dois donner 2 ou 3 balles de but. Et puis, bah, j'ai changé d'agent. Moi, je suis passé avec Christophe Orlaville, avec qui j'avais joué à Caen, qui s'est lancé agent de joueur avec moi parce qu'il n'avait pas de joueur. Donc, on avait une bonne relation. Donc, je lui ai fait confiance. Lui a bossé. Et en effet, j'ai des demandes de club à partir de décembre. Et comme par hasard, Axel Lablatinière, qui voulait pas, avec IMG McCormack, qui voulait pas prendre en compte ma résiliation alors qu'elle a été faite en bonne et due forme, m'appelle, me dit « on a un club pour toi ». Mais moi, vous n'êtes plus mes agents, vous ne me représentez pas. Bah oui, mais bon. Alors moi, tu vois, je dis bah écoutez, si tu ne me dis pas le nom du club, et il me dit le FC Nantes. Ouais, bah écoute, mais je ne suis pas avec toi. Et donc j'en parle à Christophe. Christophe, très serein, me dit « Écoute, on voit ça, fini l'année tranquille et tout. » Et puis, en fait, bah, Monaco arrive et y a une péripétie, mais je vais signer à Monaco.
Ouais. Et Alain Perrin ne veut pas que tu partes. Hein.
Non, il ne veut pas. Mais là, quand je te parlais de ma personnalité, de caractère bien trempé, pour moi, il m'avait bloqué dès la première année. Je fais une vraiment une très bonne première partie de saison avec 3. Mais on est sorti de la Coupe d'Europe, ce qui est logique, contre Leeds au deuxième tour de l'UEFA. Et derrière, voilà, quant à Monaco qui arrive, je peux pas laisser passer. Le train, il passe qu'une fois. Monaco, ça fait partie des meilleurs clubs de français. Et c'est la suite logique, si tu veux, à mon évolution de carrière, à ma progression. Et puis, c'est monsieur Didier Deschamps qui t'appelle. Donc, comment tu veux que je refuse ça? Et en plus, vu que j'ai cette clause-là et qu'on est dans un club qui n'a pas forcément l'ambition de retrouver la Coupe d'Europe l'année prochaine, normalement, Alain Perrin, vu que je sais qu'ils vont mettre un bon billet sur le transfert, Alain Perrin, qui gérait tout, qui était président, directeur sportif, entraîneur à la fois, il doit comprendre ça, sauf qu'il ne le comprend pas. Donc, il a fallu que je fasse ma forte tête et que à la reprise entre Noël et Jour de l'An, là, il y a un stage qui devait se faire dans le sud de la France pour que les conditions climatiques soient bien meilleures. Et ben, il m'attendait sur le quai de la gare, il m'attend toujours, hein, parce que j'y suis pas allé.
Tu t'es jamais pointé au rendez-vous. Alain Perrin, sur ton départ, on l'écoute.
Au mois de janvier, il vient me voir, parce que Monaco, je sais que Didier Deschamps m'appelle, hein, pour prendre des nouvelles de lui, parce qu'il s'intéresse à lui. Et effectivement, nous, on avait fait une campagne européenne qui m'avait rassuré sur son potentiel à franchir le pas. Donc, je l'ai dit à Didier Deschamps, honnêtement. Mais je voulais garder le joueur jusqu'à la fin de la saison. Mais j'ai bien senti qu'il était déterminé, d'une part, à partir. L'argument qu'il avait, c'était, bon, voilà, le train ne repasse pas forcément deux fois. C'était une opportunité pour lui. Donc, c'était difficile ensuite de retenir un joueur contre son gré. C'était ma philosophie de dire, bon, ben voilà. Bonne chance pour la suite, quoi.
Jérôme Roten avec nous dans la boîte à souvenirs, un nouveau papier avec toi dans cette boîte.
Roten le Lyonnais. Ah oui.
Roten le Lyonnais. Ouais. On est à l'été 2007, donc 6 mois après le départ de Guy Lacombe. C'est d'ailleurs Paul Le Guen qui va le remplacer. Et là, Lyon te veut.
Ouais.
L'Olympique Lyonnais te veut absolument. Toi, tu pars en stage à Deauville avec le Paris Saint-Germain. Mais pour toi, c'est terminé.
Oui, parce que on n'arrive pas. Bon, moi, déjà, ça fait 3 ans que je suis au club, avec des déceptions. En effet, la relation avec Guy Lacombe, la relation avec Vahid aussi au tout début, même si je ne l'ai pas eu beaucoup parce que je me suis blessé. Plus les changements de dirigeants, changements de président tous les ans, les changements d'entraîneurs. Donc ça fait beaucoup en 3 ans, connaître 3 entraîneurs et quasiment 3 ou 4 présidents. D'un moment, stop quoi. Et en plus, on ne sait pas où on va parce que moi, j'ai mon contrat qui court et puis c'est soit je prolonge, bah soit j'ai une valeur marchande et ils vont récupérer un petit billet et tout ça. Et c'est vrai que Lyon vient, il y a un départ de Flo Malouda en Angleterre. Lyon vient, Jean-Michel Aulas fait une proposition intéressante. Bah, moi, je ne calcule pas. Lyon est le meilleur club français. Je me dis, bon, bah, écoute, Paris, on ne sait pas trop où on va avec les actionnaires, les Amériques, les colonies. Là, est-ce qu'ils veulent investir, pas investir, le recrutement. On manque de joueurs parce qu'il fallait regarder quand même l'effectif qu'on avait. Tu te dis, mais attends, là, on va droit dans le mur. Donc, il faut recruter, tu ne sais pas. Et en effet, vu que ça n'avance pas les discussions de prolongation, bah, je me dis, bah, écoute, je vais aller à Lyon. Donc, je donne mon accord à Lyon. Mon agent est à Lyon. On est en stage à Deauville. C'est Paul Le Guen donc, qui est entraîneur. Lui, je lui fais part la veille de ma décision. Je lui dis, voilà, maintenant, les clubs vont se mettre d'accord. De toute façon, je savais que Lyon pouvait mettre une indemnité, donc ça allait se faire. Et moi, demain, je prends le train et je rentre à Paris pour aller le plus vite possible à Lyon.
Sauf qu'Alain Cazac va prendre le train de Paris pour aller à Deauville. Mmh. Il arrive à Deauville spécialement pour te voir et il nous raconte.
Et là, j'ai une grande discussion avec Jérôme pour essayer de le convaincre de ne pas partir à Lyon. Je vois le mardi, la nuit passe et la nuit porte au conseil. On se revoit le matin dans ma chambre d'hôtel. Et bon, on négocie très peu là, des queues de cerises et on se tape dans les mains et on se donne la collade et on se dit. D'accord, c'est bon, tu restes avec nous.
Bon, raconte-moi comment ça se passe dans sa chambre d'hôtel. Tôt le matin, parce qu'après tu vas partir à Lyon.
Ouais. Bah, il est obligé d'être tôt le matin, parce que moi je pars le matin à Lyon, j'avais prévu. Et Alain, le soir, on faisait un match amical alors je ne sais plus contre qui. Et après, suite à ce match-là, donc on rentre tard, il est minuit, on va dans nos chambres. Et avant de rentrer dans la chambre, Alain, donc, avait fait l'aller-retour exprès, vient me voir et me dit « Écoute, Jérôme, il faut qu'on se parle demain matin dans ma chambre. » Donc 7h30 du matin, alors qu'il est minuit, tu te dis « Bon, ok, on avait une grasse mat en plus, il nous avait laissé libre le matin, Paul Le Guen. » Je dis « Bon, bah, écoute, pas de problème, mais de toute façon... moi, mon train, il est prévu à midi, donc je vais partir après. Voilà, j'ai pris ma décision. Puis, tu sais, moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas autre part. Et donc, je viens dans la chambre et en effet, je m'assois, j'ai un peu la tête dans le cul, hein, et il me dit « Mais qu'est-ce qui bloque ?» Ben, je dis « Mais Alain, comment, qu'est-ce qui bloque ?» Je veux dire, ça fait des mois que mon agent, on essaye d'avancer avec le club. Moi, je m'en fous, vous réglez vos trucs. À l'arrivée, si l'actionnaire ne veut pas donner, faire l'effort, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une proposition. Non, mais attends, on est tous les deux là, tu sais que je t'apprécie. Et c'est vrai que, ça c'est une aparté, mais j'ai une relation particulière avec Alain, je l'ai toujours eu. Je trouve que c'est un homme formidable, vraiment. Et puis en plus, il a eu un gros souci de santé ces dernières années. Donc... voilà, il y a beaucoup de respect et c'est vrai que ça me rappelle tellement de souvenirs, cet échange dans sa chambre, que c'est fantastique de se rappeler ça, parce qu'en effet, il y a plus qu'une accolade. Il y a tellement de respect mutuel, mais plus moi que pour lui, par rapport à cet amour qu'il a du PSG, que oui, en fait, je ne lui ai pas dit, mais je savais que chaque mot qu'il pouvait me dire et tout ça, il me prenait par les sentiments. Et même s'il m'avait proposé moins d'argent, j'aurais dit oui.
Mais en fait, surtout, il te dit, bon, ça traîne ta négociation de contrat depuis quelques temps, mais là, il te dit, qu'est-ce que tu veux ?
Mais qu'est-ce que tu veux ? Donc moi, je lui dis, écoute, on demande ça, depuis le début. Donc en plus, ce n'était pas une augmentation énorme de salaire. Et en plus de ça, c'est que je suis honnête, entre ce que j'avais à Lyon et ce que là, je pouvais récupérer au PSG, je gagnais moins d'argent. Mais je restais dans le club, de mon enfance, dans le club de mon cœur. Et en effet, quand je lui dis ça, Alain me dit, bon, regarde, il me dit, bon, ok, cette prime-là, on peut te la payer en deux fois, en trois fois. Je dis oui. Il me dit, si je dis oui à ça, c'est bon. Et genre, il est étonné. Je dis, bah oui. Et là, il se lève et il y a cette fameuse accolade, donc j'ai compris. Et j'ai re-signé comme ça. J'ai appelé mon agent en sortant à 8h du matin. Lui, il était à Lyon, il m'attendait. Je lui dis, écoute, tu prends tes affaires et tu remontes sur Paris. Il y a le contrat qui t'attend au parc. Tu le signes, tu prends ta com et puis voilà. Et en fait, c'est de ce jour-là que j'ai compris que de toute façon, j'avais plus besoin d'agent.
Tu pouvais négocier tout seul.
Ben oui, mais par contre, j'ai été réglo. J'ai été réglo, c'est qu'il a pris sa com, alors qu'il n'a rien négocié, il a pris sa com, et deux jours-là, j'ai fini de bosser avec lui.
Alors tu es resté au Paris Saint-Germain, mais ça tu ne le sais pas à ce moment-là, ça va être la pire saison, l'une des pires saisons dans l'histoire du PSG. Le 1er décembre 2017, 18e journée de championnat, 2007 évidemment, 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Caen. Le PSG est alors 18e de Ligue 1, c'est la grève des encouragements, et avant cette rencontre, un supporter va te donner un tract pour expliquer les raisons de cette grève, et voilà comment ça se passe.
Dans les mains ce tract, à tous les amoureux du Paris Saint-Germain. C'est un tract qui a été distribué par les supporters dans les tribunes pour dire qu'il y aurait grève ce soir à Boulogne, à Auteuil, pendant 15 minutes. Alors Jérôme Rotten, par exemple, qui attendait beaucoup de tout un parc pour pousser dans ce match décisif, a eu beaucoup de tristesse là devant le président Cézac. Vous voyez, il a même eu un moment un petit peu de colère en demandant avec les photographes qu'est-ce qui se passait. Voilà cette tension palpable ce soir du côté du Parc des Princes avec ce tract.
Ouais, c'est un geste qui a beaucoup fait parler.
Ouais, et c'est une façon aussi de rendre hommage à Momo de Skyrock, qui n'est plus là malheureusement, et c'était avec lui que je m'étais chopé. Alors lui était le représentant en fait du groupe de supporters, le photographe du groupe de supporters, donc au bord de pelouse. Mais en fait, il est venu. Moi, j'avais un rituel quand j'arrivais au parc. Je posais mes affaires dans le vestiaire, comme tout le monde. Après, j'allais voir la pelouse. Je traversais la pelouse. Bon, j'étais un petit peu malade, hein, mais j'avais une façon d'aller voir. J'allais traverser la pelouse. Je parlais quelques minutes avec les handicapés qui étaient en face, là, au bord de pelouse, faire des photos et tout avec eux. Après, je revenais, je longeais la ligne de sortie. Et puis après, c'était pour rentrer au vestiaire. Et quand je longe, je suis dans ma concentration, en fait. Je suis avec Jérôme Alonso, qui est pas loin, mais lui qui jouait pas, qui était deuxième gardien. Et là, oui, en effet, j'ai un mec qui me tape dans l'épaule, sans nous dire bonjour ni rien, et il nous remet un tract. Alors, bon, Momo, je savais qui c'était. Mais d'une façon, déjà, il me remet le tract, d'une façon, tiens, Donc là, je lis le tract avec Jérôme Alonso, et c'est vrai que le tract, il nous fracassait, les joueurs. Donc tu te dis, on joue un match hyper important, en effet, c'est très tendu, il faut absolument qu'on inverse et qu'on gagne ce match. Et lui vient m'emmerder dans ma concentration, à me rendre un papier où quasiment on se fait insulter, les joueurs. Donc j'ai dit non, mais attends. Et en plus, donc j'apprends qu'il y a une crêpe d'encouragement. Donc là, moi, je mets en boule le tract.
Et tu le jettes.
Et je lui jette vers la tête. Et je lui dis. En plus, il parlait avec les autres journalistes au départ. Et je lui dis, oh, si tu veux faire le beau, vous voulez faire les beaux, on n'a pas besoin de vous. Nous, on a besoin des gens qui veulent nous encourager. Pas de tract comme ça veut dire quoi? Et en fait, on a une discussion un peu houleuse. Plus moi que lui. Lui, il subit les choses. Il y a des caméras toujours bien intentionnées qui film, donc c'est repris en effet sur le diffuseur de l'époque. Le problème, c'est que si le match était bien déroulé, ça, on aurait oublié cette scène-là. Le problème, c'est qu'on le perd, ce match.
Et pour tous les amoureux du Paris Saint-Germain, j'imagine que vous avez en tête ce contrôle raté de Marco Serra et ce but dans les dernières minutes.
Horrible.
Et Caen qui va s'imposer 1-0 deux jours plus tard. Caen des loges, les supporters sont là pour t'accueillir.
Tu jettes des papiers, tu t'en fous, tu dis ouais, les supporters ils font grève,
c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit.
C'est ce qu'ils disent les médias, donc tu vois, ils parlent trop.
Cassez-vous.
Après les médias, malheureusement, avant Nice, j'ai fait un article dans le JDD, tu vois. Tout le monde m'a dit, mais tu penses qu'une chose, c'est de te casser. Mais quelle idée de casser? Attends, j'avais Lyon. J'avais Lyon avant de partir. J'avais Lyon.
Même tu serais parti, t'aurais pas joué là. Il y a Belarfa, il est super fort.
Mais peu importe. Non, mais peu importe.
Lyon, ils sont premiers, ils sont encore champions.
On sait que ce club, on sait déjà. Donc après, au bout de 4 mois, je vais dire, oui, je vais quitter le navire dans la galère.
Ça va très loin dans les menaces.
Ouais, ça va très loin dans les menaces. Et je me suis pas trop livré là-dessus, mais suite à ça, il y a eu des menaces d'ordre privé. Ils sont venus jusqu'à chez moi, certains, ridicules, me laisser des lettres de menaces, me crever les pneus, me mettre des tags sur la maison. J'avais mes enfants qui étaient à la sortie de l'école ou qui étaient protégés aussi. Tu vois, donc c'est un très très mauvais souvenir. Mais à l'arrivée, je suis encore fier, si tu veux, c'est que là j'ai touché le fond. Mais j'ai su me relever. Mais je me suis relevé tout seul.
Comment s'appelle ta maman ?
Dominique.
On va l'écouter sur cette période.
C'est dur. C'est dur à vivre. Mais c'était déjà dur quand il jouait. Hein. C'était pareil. Hein. Les critiques dans les tribunes sur les uns et sur les autres, on les subissait autant. Non, c'est pas facile.
Ouais. Je sais que ma mère en a tellement souffert. Souffert de ces critiques. Et encore, à l'époque, heureusement... Dieu merci, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et on a raconté tellement de mensonges, tellement de choses. Elle était directrice d'école, comme quoi j'avais mis mes enfants en scolarité là, que j'avais essayé de créer un passage différent pour ne pas côtoyer les gens. Tu te rends compte sur jusqu'à où on est allé dire comme quoi je voulais éviter les gens, mais je ne suis pas le président de la République. Au bout d'un moment, quand tu me connais, C'est pour faire mal et cette période-là m'a fait mal. Heureusement, j'ai réussi sportivement à passer le cap et à retourner le parc. Et ça, franchement, je pense que c'est une de mes plus belles victoires.
Ton histoire va mal se terminer avec le Paris Saint-Germain. On sera en 2010 après des prêts en Turquie ou encore au Glasgow Rangers. Et le PSG va mettre fin à ton contrat. Et là, tu le disais, tu vas réussir à te relever parce qu'il y aura des moments de galère. Tu vas être 7 mois au chômage.
Ouais.
7 mois au chômage. Grégory Campi, ça te parle ?
Greg,
c'est ton ami de toujours.
Très bon ami.
Est-ce qu'il doute, Jérôme Rotten, dans sa tête ? On l'écoute.
Encore maintenant, je ne me sens pas douter. Hein. Si aujourd'hui, vous lui dites, mettez crampons, on va sur un match de Ligue 1, il va y aller. Hein. Alors après, bon ou pas bon, perte de gueule ou pas perte de gueule, mais non, c'est un garçon qui doute pas. Jérôme, je pense qu'il n'a jamais douté et il doute encore moins aujourd'hui. Il était parti à Bastia, regardez la saison qu'il fait à Bastia. À 30 ans et quelques... avec ce qu'il avait vécu en équipe de France, en Ligue 1, tout ça, il va à Bastia en Ligue 2, il est des meilleurs joueurs de Ligue 2, et il prouve à tout le monde que voilà, il y a des coups durs, et malgré tout, voilà, il a fait l'unanimité à Bastia.
Ouais, c'est vrai. Greg, c'est bien de le prendre, de l'avoir eu, parce que Greg, il me ressemble tellement, on est les mêmes. Alors lui, il est brun, moi je suis blond, du moins un peu moins blond maintenant, mais c'est vrai qu'on a une relation... c'est pas mon meilleur pote pour rien, mais on a une relation particulière déjà à l'image de son père, qui était un deuxième père pour moi. Mais et que j'embrasse fort de là-haut, qui est parti trop tôt, sa mère pareil. En fait, c'est eux, ils me connaissent parfaitement, et oui, j'ai toujours eu, et de façon ça se voit par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que j'ai eu grâce, c'est mes parents qui m'ont donné ça, ce caractère-là, cette force de caractère pour, quand t'es mal, réagir, il faut toujours réagir, il faut pas baisser la tête. Et oui, c'est une façon de Bastia, de partir comme ça à Bastia, de dire vous voulez que je me barre à l'étranger, j'ai pas envie. Voilà, j'y suis allé au Glasgow Rangers, j'y suis allé en Turquie, mais là, je vais passer, je préfère ne pas jouer pendant 7 mois et avoir un challenge où je sens que des gens vont me prendre pour ce que je suis.
La boîte à souvenirs avec Jérôme Rothen, un nouveau papier. On est avec toi sur RMC.
Trois gros clubs et le PSG.
Qui te dit ça? Tu t'en souviens?
Trois gros clubs et le PSG.
On est en 2004, juste après cette finale perdue face à Porto en finale de la Ligue des Champions avec Monaco.
Mon agent.
Ton agent?
Oui, bien sûr.
Mon il te agent. Dit quoi, ton agent? Il te dit, sur la table, j'ai...
Voilà, j'ai des propositions. La première, c'est Barcelone. Et on est donc pas loin du match de quart de finale contre le Real Madrid, ou même juste après, je crois. Et donc, oui, il y a des discussions. Alors déjà, parce que je sais que Monaco n'aura pas les moyens de garder les meilleurs joueurs de l'année. Il y a un problème de dirigeants là-bas et tout ça, on le sait très bien. De toute façon, ils n'ont rien fait pour nous prolonger. Et on sait qu'il va falloir aller voir ailleurs dans tous les cas. Et puis, on est en train de faire quelque chose de tellement fantastique que ça va être difficile de faire mieux après à Monaco. Donc oui, il me dit, j'ai des propositions. Alors, la première, c'est Barcelone. Après, il y a Chelsea, parce qu'il y a ce match aller-retour contre Chelsea qui est fabuleux de notre part et de ma part, surtout le match retour. J'ai la Juve en Italie. Voilà, donc ça fait quand même trois gros clubs. Mais il me dit, et le PSG. Mais pour lui, en fait, il me dit, et le PSG, parce qu'il est persuadé que le PSG, je vais pas m'en occuper. Et c'est vrai que quand je dis à tout le monde que je vais venir au PSG, tout le monde me prend pour un fou.
Tu ne vois que l'offre du Paris Saint-Germain. Il y a Alain Roche qui t'appelle.
Oui, parce que... En fait, on dit, et maintenant, vu la discussion que j'ai eue avec Alain Roche ce jour-là, je me dis, on l'a forcé à m'appeler. C'est pas qu'il veut pas que je vienne, pas du tout. Lui, il est. Mais pour lui, quand il sait que je suis meilleur passeur de la Ligue des Champions, que je vais faire finale de Ligue des Champions avec Monaco, que j'ai été très bon contre le Real, contre Chelsea, il se dit, mais il n'y a aucune chance que Jérôme il signe chez nous. Il va aller ailleurs, on n'a pas les moyens. Donc il me dit, moi, on m'a dit de t'appeler. Déjà, t'es un peu maladroit. Voilà, nous, on est intéressés par ta venue. Après. Vu les moyens qu'on a, je suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il m'appelle? Pour me dire, écoute, on te veut, mais on n'a pas les moyens. Donc, je lui fais part, moi. Pas de problème.
Mais toi, t'as envie de venir.
Mais moi, je vais pas le rassurer, lui. Quand même, c'est pas mon rôle. Mais quand je raccroche, j'appelle mon agent. Je lui dis, mais c'est quoi ce discours là? En fait, ça rime à quoi? Non, mais il était maladroit, nanana. Après, Christophe me dit, c'est vrai que peut-être que financièrement, ça sera plus intéressant ailleurs. Et qu'il a pas tort, si tu veux.
Et le président de l'époque, Francis Gray, arrive à te convaincre.
On savait que ça serait difficile. On savait que sans la volonté du joueur, on ne pourrait pas l'avoir parce que le Monaco ne ferait pas de sentiments et donc irait au plus offrant. On savait que dans ce domaine-là, on ne pourrait pas rivaliser avec des grosses écuries. Il fallait convaincre Jérôme. Et puis après, ce n'est pas du harcèlement, mais comme avec Pedro l'année d'avant, on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup parlé avec Jérôme pour le convaincre.
Bon, il faut dire aussi qu'il t'a un peu survendu le mercato cette année-là.
Oui, il m'avait annoncé quand même la sécurité de jouer avec Sorin derrière, alors que Sorin, quand j'ai signé, il est reparti. De vendre un attaquant supplémentaire à Pedro. Déjà, il y avait un attaquant de classe, c'était Pedro Pauleta, mais il m'en avait vendu un deuxième. Donc déjà ça te rassure avec ces joueurs-là, sauf qu'à l'arrivée, ils n'ont pas recruté devant. Devant, c'était Pauleta, soit Luboya, soit Reinaldo. Pas Ronaldo, Reinaldo, non mais... toi tu rigoles, mais c'est le cas. Et c'est vrai que bah, derrière, dernier jour du mercato, ils te prennent Fabrice Pancrate qui jouait au Mans, tu vois, pour combler le départ de Fiorez qui était parti le dernier jour du mercato à Marseille. Donc, si tu veux, tu sais très bien que l'équipe, elle se renforce pas.
Mais quand même, ce jour de présentation au PSG, c'est pour toi un rêve de gosse, quoi.
Ouais.
C'est un des meilleurs moments de ta vie professionnelle.
Ah ouais, quel... Ah ouais, c'était à refaire, je le referais. Mais je peux pas l'expliquer, mais t'imagines, tu réalises ton rêve de gosse. Réaliser ses rêves dans sa vie, c'est rien de plus beau. Et là, je réalise mon rêve ultime de jouer au Paris Saint-Germain, de fouler la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG. Mais je me dis, moi, je me revois encore gamin à l'âge de 4 ans avec mon père dans les tribunes d'Auteuil. Ah, mais il y a pas plus beau, en fait. C'est pour ça que, encore avec le recul, si on me dit j'ai des regrets, mais quels regrets je peux avoir? Le regret d'être parti à l'étranger, de ne pas être sûr de réussir à l'étranger. Là, j'ai réalisé mon rêve de gosse. Mon rêve de gosse. Et si c'était à refaire, je le referais.
Un enfant, c'est comme ça que te décrit Francis Gray le jour de ta présentation.
Jérôme, c'est un enfant. Et quand je l'écoute dans ses commentaires, quand je le vois à la télévision, je l'écoute à la radio, c'est toujours un enfant et ça restera toujours un enfant. Il a ce côté un peu où il dit les choses comme il les pense. Sans jamais trop, parfois, je dis trop de réflexion, c'est pas mal intentionné quand je dis ça dans ma bouche, mais il est naturel. Donc le petit blondinet qui arrivait un peu pimpant à Paris et qui revêtait un maillot qu'il désirait tant, je sais que c'était un moment fort pour lui à ce moment-là, et moi j'en garde un très 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 bon souvenir.
Ouais. Bah oui, parce que lui il m'a vécu, du moins il a vécu avec moi la période où tu signais donc au siège du club qui était au Parc des Princes. À l'arrivée, moi c'était juste après l'Euro au Portugal, donc le groupe avait déjà repris l'entraînement, ils étaient au Camp des Loges. Francis, je signe mon contrat, il me dit on a fait venir la presse au Camp des Loges, donc viens au Camp des Loges, donc il fait le voyage avec moi, comme ça tu échangeras quelques mois avec Vahid et puis après tu pars en vacances. Donc était déjà réservé après l'Euro forcément et tout, et puis donc je vois la presse, donc forcément il y a de l'excitation. J'arrive dans le bureau avec Vahid, content que je signe, on échange, et puis là Vahid me dit on part demain en stage à Aix-les-Bains, tu nous rejoins lundi prochain. Je dis mais comment ça je vous rejoins lundi prochain? Je dis moi j'ai signé, on m'a dit 3 semaines de vacances. Ah non, fini. non. Toi vacances Portugal? Je dis comment ça vacances Portugal, j'ai fait l'Euro. Mais pratiquement pas joué toi. Mais toi repos? Non, c'est signé, faute professionnelle si tu viens pas. J'avais réservé 3 semaines de vacances derrière pour me reposer. Attends, une saison où j'avais fait presque 60 matchs, j'avais besoin, je sentais qu'avec Monaco, avec l'Euro, tout ce qui s'était passé mentalement, il fallait que je me repose. Même si tu as l'excitation, si tu veux, de revêtir le maillot du Paris Saint-Germain au plus vite.
Mais t'es jamais parti en vacances?
Bah une semaine, 6 jours. Je suis parti obligé de changer. Je suis allé à Ibiza, je me souviens. Et au bout de 3 jours à Ibiza, je me suis tapé une gastro. Je suis arrivé, j'étais plus blanc que blanc en stage à Aix-les-Bains. Donc imagine comment j'ai fini sur les rotules.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Jérôme Rotten.
Boulard, pas boulard.
Boulard ou pas boulard? T'as vu, il y a un point d'interrogation.
Ouais. Boulard, pas boulard. Mais le point d'interrogation, il est sur le boulard ou le pas boulard?
Sur les deux, est-ce que tu peux répondre à cette question? Boulard ou pas boulard, Jérôme Rotten?
Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que, non, quand tu me connais, je ne suis pas boulard.
Mais... Pas boulard quand on te connaît, mais quand on t'écoute...
Qui est le dernier à avoir mis un coup franc au Féroé?
Et quel coup franc, hein. Le plus beau de ces 20 dernières années. Je lui ai fait sa carrière, Anthony Modeste. On lui dit, écoute, on a besoin d'un attaquant, t'es grand, mets-toi devant, les ballons ils vont arriver. J'ai réussi à lui me faire marquer 15 buts quand même. J'ai déjà réussi à faire marquer presque 30 buts à Chabani Nanda. Imagine Cavani dans cette équipe-là. Donc Scoblar, on n'entendait plus parler. Et mon père, il m'a mis un ballon, il a dit, oh, incroyable, incroyable. Il n'a pas besoin de chaussures,
le mec,
mon fils.
Le mec il marche pas encore. Hein.
Ouais, tu lui demanderas, mon père, tu verras. Mais là, en plus, c'est pas Boulard, c'est la vérité. Mais non, en fait, Le truc, c'est que à l'antenne, j'en joue, oui. Après, que je me sentais fort et qu'il fallait que j'aie ce côté-là pour exister sur un terrain, dans un vestiaire, oui. Et je pense que ça, je l'ai eu depuis tout jeune, en fait. À Clairefontaine m'a donné ça. Parce que si tu t'écrasais devant certains, c'est la jungle. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'au fond de moi, je ne doute pas hein, par moment, heureusement.
Mais tu l'aimes bien cette image?
Oui.
Ouais.
Ah oui,
j'en
joue.
Elle
me fait rire, j'en joue. En plus, tu sais, souvent on me dit à l'antenne, tu as su créer ce personnage-là. En fait, ce n'était pas voulu. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais créer ce personnage-là. Non, c'est moi. Et en fait, où je suis heureux dans un sens et fier de ma reconversion, c'est ça, c'est d'essayer de mettre à l'antenne ma vraie personnalité.
En tout cas, cette image, Greg, ton meilleur ami, ça l'énerve un peu.
Ça m'a toujours un petit peu saoulé. C'est, quand on le connaît, c'est un garçon vraiment gentil, avec le cœur sur la main, franc, honnête. Et après, effectivement... quand on le connaît pas, ben voilà, c'est le petit Parisien qui s'enflamme, qui a le boulard, voilà. Alors on en rigole, hein, on en rigole tout le temps, hein, par rapport à ça. C'est vrai, quand c'est ton pote, ça fait toujours un petit peu chier, hein, ça c'est sûr. Hein, mais voilà, après ça reste, c'est le jeu, c'est le prix à payer. Maintenant, effectivement, vous me demandez boulard ou pas boulard, pas du tout boulard, mais vraiment pas, vraiment pas.
Voilà, la réponse elle est là. Mais en fait, il a raison dans ce qui est... Après, je suis avec mes amis, c'est ma vie privée. On est aussi différents. Donc oui, si à l'arrivée, je devais répondre, je ne te dirais pas boulard. Mais à l'antenne, vu ce qu'on entend, je ne vais pas te dire que j'en joue pas. Mais...
Oui, mais dans la vie de tous les jours, le vrai Jérôme, eh bien, c'est Dominique, ta maman, qui nous en parle.
Ah. Alors mon petit garçon, c'est quelqu'un de très simple. Très, vraiment très simple. Il est d'une sensibilité aiguë, on va dire. Il montre pas forcément tout ce qu'il ressent, mais moi je le connais par cœur, hein, vous savez. On avait une relation très fusionnelle tous les deux. Il veut chasser toutes les mauvaises ondes, ça c'est clair, mais il fera tout pour les enfants. Je l'ai vu, moi, une année... une maman qui téléphone pour dire, vous savez, Monsieur Roten, c'est l'anniversaire de mon fils, il serait content que vous lui téléphoniez. Et Jérôme a répondu, écoutez, on va lui faire la surprise, je vais pas téléphoner, je vais venir. Et il est allé fêter l'anniversaire avec une douzaine de gamins, enfin bon, voilà, ça c'est Jérôme.
Ouais. Non, mais c'est... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est difficilement explicable, du moins à l'antenne comme ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête sur les épaules et ça, c'est dû aussi à mon entourage, aux gens qui vivent avec moi au quotidien, qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué comme ma maman ou mon père, tu vois, qui m'ont donné ça. Et oui, je suis. Si je peux donner, je donne.
Il est comment à la maison, Jérôme Roten? C'est Linda, ta femme, qui nous en parle.
En fait, c'est quelqu'un de super timide en plus. Super timide et qui a besoin de se sentir aimé, quoi. Comme quand il était footballeur, quoi. Il fallait qu'il se sente aimé par son coach pour donner plus que le max de lui-même, que ses coéquipiers l'aiment, que non, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, hein, beaucoup, hein. Mais je pense aussi qu'on arrive quand même à voir qui il est, le fait de chambrer, le fait que quand on écoute les émissions, il est très second degré, quoi. Dès qu'il y a une connerie à dire, il l'a dit, c'est lui, quoi. C'est rien n'est grave, quoi. Il a une carapace comme on en a tous, et moi je suis pas public, mais j'imagine que si je devais être public, je mettrais une armure carrément, quoi.
Ouais, elle mettrait une armure, ça je te garantis.
Et toi, tu mets une armure?
Écoute, là-dessus aussi, c'est vrai que quand t'es très timide quand t'es gamin, et c'était le cas. Avec du recul, je me dis, mais comment je peux bosser aujourd'hui dans les médias? Comment j'étais quand j'étais gamin? J'ai travaillé sur cette timidité, mais au fond, cette timidité, elle est toujours là. Elle a assez bien résumé. Ouais.
Et puis aussi, chambrer pour se protéger et ne pas toujours parler de choses extrêmement sérieuses, tourner toujours les choses à la dérision.
Ouais. Peut-être trop par moment, peut-être trop chambreur.
Tu as connu une période extrêmement difficile, Jérôme, ces dernières années. Tu n'en as jamais parlé. C'est la maladie de ton fils, Jay, ouais. Qui a aujourd'hui 6 ans. C'était quoi tes journées?
Excuse-moi, mais... Là, tu me touches au plus profond de mon cœur, en fait. Ouais, c'est très, très difficile parce que c'est déjà très personnel. J'ai vécu, ouais, à l'âge d'un an et demi, mon fils a eu une leucémie, en fait. Et donc, bah, c'était des journées terribles. Terribles pour lui, déjà, mais pour nous et pour moi. Et en fait, là, j'ai relativisé, si tu veux, le fait de me dire, mais en fait, dans ma carrière, mais j'ai rien connu, quoi. Tu penses avoir cette carapace d'être fort, tu vois, d'être l'homme fort de la maison, l'homme fort sur le terrain, l'homme fort de la famille et tout, parce que, mais en fait, c'est rien par rapport à la maladie, qui est tellement injuste. Et je parle de mon fils comme je peux parler de des autres enfants, malheureusement, qui ont vécu ça, cette maladie ou d'autres, hein, de toute façon, parce que c'est tellement injuste aussi, aussi jeune. Et donc, les journées ont été très, très dures parce que c'est... c'est ce qui m'a sauvé dans un premier temps. C'est d'être à l'antenne. Et ça, franchement, je remercierai jamais assez RMC pour ça.
Et personne ne savait rien.
François Pesanti, oui. Tu sais, on a tous des problèmes, en fait, dans la vie. Et moi, je pars du principe que quand j'arrivais dans le vestiaire, les problèmes d'ordre privé, il fallait les laisser de côté, les laisser dans la voiture. Parce que ça gangrène un groupe. À RMC, quand je suis arrivé là, c'était pas pour pleurer devant tout le monde. Déjà, je l'aurais pas fait. Et je ne l'ai même pas fait devant ma femme ni devant mon fils parce qu'il fallait qu'ils soient forts les deux. Et ils l'ont été, hein, je peux te dire, beaucoup plus que moi encore. Et donc quand j'arrivais là à RMC, c'était une bouffée d'oxygène en fait. Je me disais, putain, mais à l'antenne, vas-y, donne. T'as encore du jus, donne. Et puis en plus, j'avais envie d'en faire mon deuxième métier en fait. Parce que je m'éclate à l'antenne. Et c'était dur parce que les nuits tu dors pas beaucoup, parce que tu te poses des questions et tu te dis putain, mais moi je vois toujours un ciel bleu, mais là le ciel bleu il avait du mal à arriver quand même. Et aujourd'hui mon rayon de soleil c'est mon fils parce qu'il est soigné et voilà. Et puis en fait on fait ça et puis là normalement dans 2 mois, du moins c'est pas normalement parce que j'en suis sûr maintenant, il est dans ceux qui sont sauvés, en fait. Et à travers ça, je pense à tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas le même destin que nous, quoi, et que lui. Donc c'est dur, mais je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. C'est horrible, ce moment-là. Quand tu l'apprends, comment tu l'apprends, on n'est pas préparé à ça, en fait. Et on a réussi. Du moins, il a réussi. On l'a encadré, mais voilà. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, peut-être qu'il vient, il fera encore mieux que son père sur le terrain de foot. Du moins, je le souhaite, en tout cas.
Avant de raccrocher avec ta maman, elle voulait absolument nous dire quelque chose. C'était ça.
Il a vécu des années difficiles avec son petit garçon. Il n'a rien dit, il fallait le vivre. Hein. Il venait travailler à RMC comme si de rien n'était. Enfin, il y avait l'hôpital la journée, l'hôpital le soir. Et voilà, c'est un enfant qui restait quand même plus de 2 ans et... qui commence à voir la fin du tunnel. Alors quand on voit des critiques à droite, à gauche, sur le personnage, hein, sur la personne, on finit par faire la part des choses en disant qu'est-ce qu'il y a plus d'important dans la vie, quoi.
Elle a tout dit, sur la fin. Qu'est-ce qu'il y a... Les critiques, non, parce que c'est pour ça que je te dis que ici, à RMC ou ailleurs, je me suis pas livré là-dessus parce que je suis pas le seul à vivre ce genre de galère, de tristesse et tout ce qui en suit, et que il faut faire la part des choses, les critiques sur autre chose. C'est pas pour autant je veux pas avoir que les gens aient de la peine pour moi, parce que c'est pas sur moi qu'il faut avoir de la peine. C'est pas moi qui ai lutté. Hein. Moi j'ai subi les traitements. C'est mon fils qui a lutté. C'est mon fils qui est un monstre là-dessus. C'est lui qui est monstrueux. Moi, j'ai rien fait à l'arrivée. Je l'ai accompagné. La seule chose que j'ai dit à ma femme le jour où on a appris, et je peux te dire que c'est dur hein, quand les médecins viennent et te disent « il y a ça, ça, ça », je lui ai dit « écoute, d'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, quand on est avec Jay, on a la bonne humeur, le sourire, avec les gens, c'est pareil, il faut voir que le positif. Il n'a pas le droit de nous voir pleurer. Lui, il a le droit de pleurer, mais pas nous. » Voilà. Et franchement, on s'est tenu à ça, je me suis tenu à ça, et Linda était plus que forte, vraiment. Donc, Voilà, et ma mère a bien résumé. Voilà, aujourd'hui il fait beau et tant mieux.
RMC, la boîte à souvenirs,
la sortie de boîte.
La boîte à souvenirs avec Jérôme Roten, ce n'est pas encore terminé. Vous écoutez RMC, nous allons maintenant évidemment sortir de la boîte avec l'interrogatoire, car parfois, tu le sais Jérôme, quand on sort de boîte, on peut passer par la case interrogatoire. La première question, l'entraîneur que tu as préféré?
Oh, Didier Deschamps.
L'entraîneur que tu as détesté?
Guy Lacombe.
Ta plus grosse erreur?
D'avoir fini ma carrière à Caen.
Le plus beau stade hormis le Parc des Princes, évidemment.
Le plus beau? Plus beau, le Bernabeu.
Ton plus beau match?
Plus beau match, le Chelsea-Monaco du match retour de demi-finale de Ligue des Champions.
Le meilleur joueur avec qui tu as joué?
Il y en a quelques. J'ai eu la chance d'en croiser des phénomènes, mais je vais te dire Zinedine Zidane parce que c'était fantastique, mais j'ai eu aussi la chance d'être formé, d'avoir joué beaucoup de matchs avec lui et puis aussi de le retrouver en équipe de France, et Thierry Henry, parce que Thierry c'était quand même fabuleux ce qu'il pouvait faire sur un terrain.
Le pire joueur avec qui tu as joué?
Bah, on a parlé de l'année du maintien avec le PSG, il y en a quelques-uns.
Il n'y a pas les Brésiliens là, qui sont arrivés? Genre,
c'est pas... Burton et Souza. Ouais. Du moins, je n'ai pas beaucoup joué avec eux. Ils sont entraînés avec moi, mais... et heureusement, l'arrivée, mais encore. Mais oui, Everton pouvait en faire partie, parce que vu le prix combien ils l'ont payé, et surtout ce qu'ils lui donnaient tous les mois, je peux te dire qu'il y a beaucoup de footeux qui peuvent faire une carrière dans le foot.
Ta plus grande folie?
Moi, c'est il y a quelques années, c'est d'avoir acheté une belle voiture de course comme ça en l'espace de quelques minutes.
La dernière fois que tu as pleuré, Jérôme?
Bah là.
Et sinon?
Là, t'as réussi à me faire pleurer. Et c'est rare en public, hein. Bah en public, on n'est pas nombreux, mais
à nous écouter, si, des millions.
Oui, non, mais oui, ça, c'est sûr que là, ils m'ont entendu. Mais non, la plus grosse tristesse que j'ai eue, c'est la perte de ma grand-mère, qui était, voilà, ça a été très, très dur, très, très, très dur il y a quelques années. Et c'est vraiment, voilà, on a parlé assez de la maladie de mon fils, mais bien sûr que là aussi, il y en a eu des pleurs en privé.
Maintenant, l'interrogatoire, Jérôme, va être mené par tes proches. Première question, Fernando Morientes.
Hola, Jérôme. Aquí Fernando Morientes.
Bonjour Jérôme, c'est Fernando Morientes, ton ancien coéquipier à Monaco.
Y bueno, ya que estamos hablando,
on a parlé du grand centreur que tu étais. Et j'aimerais connaître le nom des trois attaquants qui ont le plus marqué grâce à tes centres. Voilà.
Rematadores gracias a tus centros.
Bah, Nando, il en fait partie. Donc, puis en plus, avec tout ce qu'il a dit de bien sur moi, je ne peux pas dire non, 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 mais blague à part, Nando en fait partie. Chabaninonda, bien sûr, parce que c'est avec Chaba que... j'ai eu le titre de meilleur passeur de Ligue 1 avec 18 passes sur l'année. Et Chaba avait fini meilleur buteur, donc il y en a eu beaucoup pour lui. Et puis à Paris, Paoletta, parce que Paoletta, dans des équipes très moyennes du PSG, il a quand même mis plus de 100 buts au PSG en très peu de saisons quand même. Et c'est pas un PSG qui écrase ses adversaires comme aujourd'hui. Donc oui, Pedro, obligé de le mettre. Et puis une petite parenthèse à Anthony Modeste, parce que je l'ai dit dans des trucs, il en a mis beaucoup, mais il m'en a croqué quelques-uns.
Mais tu l'as régalé. Question maintenant de Grégory Campi, ton ami.
Voilà Jérôme, j'ai une petite question pour toi. Comment tu vas t'y prendre sur l'année 2021 à essayer d'en gagner une je te laisse choisir tes armes, au karting, au ping-pong, au tech-ball, au billard? Comment tu vas t'y prendre pour arrêter de visiter le quartier de chez moi à chaque fois que tu envoies les ballons au tech-ball au-dessus de la barrière, parce que justement tu es un peu en panique? Donc j'aimerais savoir ça m'intéresse.
Alors tu sais que Greg, ça m'étonne pas qu'il me pose cette question là parce que quand je te dis que on parle de compétiteurs, mais tous les deux, on est monstrueux. Mais vraiment. Alors, dès qu'on joue à quelque chose, dès qu'il se fait, on est en... Alors, si on est tous les deux, je peux te dire que l'équipe d'en face, elle est obligée de s'arrêter. Hein, parce que c'est pas possible, elle nous gagnera jamais, dans tous les cas. Mais c'est vrai que tous les deux, on a... En plus, on est souvent du même niveau, sur les... que ce soit au ping-pong, que ce soit au billard.
Ça... Lui nous dit que c'est lui qui gagne.
Non. Au tech-ball, oui, parce que il a quand même représenté la principauté de Monaco au dernier championnat du monde, et je devais le faire avec lui. C'est avec le prince Albert, il avait demandé qu'on soit tous les deux. Bon, moi, je n'avais pas pu par mes obligations. Mais sur ça, le tennis aussi, on est très proche. Il n'y a que le foot où là, on est à des années-lumière. Mais bon, ça, il le sait.
Oui, le concert de L5, c'est quoi ça?
Concert des L5, tu sais que les L5 à l'époque quand j'étais à Monaco, c'est là qu'on a. Elle faisait un carton et il y avait un concert au Nikaya à Nice. Donc on s'était incrusté au concert des L5, on s'était régalé.
Et vous avez été très bon.
Nous on a été très bon et puis elles se sont régalées parce qu'elles n'ont pas arrêté de nous mater. les 5 là.
Un message maintenant de ton pote Grégory.
Écoute Jérôme, voilà, on rigole, on chambre, c'est bon enfant. Maintenant, je voulais te dire aussi que, écoute, t'es un mec, pour moi, t'es un mec qui compte. T'as toujours été le même. T'as toujours été présent dans les bons et dans les mauvais moments de ma vie. Et j'espère pareil pour toi. Tu sais que tu peux compter sur moi et je sais que je peux compter sur toi, c'est le plus important. Et hâte aussi que tu viennes t'installer un peu dans le sud parce qu'à Paris, il fait trop froid. Voilà.
Et ouais, moi aussi je l'aime. De toute façon, j'ai pas beaucoup, comme je te dis, j'ai pas beaucoup de vrais amis. On est tous pareils de toute façon. Mais lui, oui, il compte énormément. Et on a vécu des très très bons moments, très souvent un moment noir avec la perte de son papa. Mais on prend le dessus tous les deux et franchement, on s'éclate à chaque fois. Et oui, un jour je finirai dans le sud, ça c'est sûr.
Philippe, également un ami, supporter du PSG. Une petite question pour toi.
Mission qui s'appelle Roten Régal. Voilà, je voudrais savoir si demain je peux avoir une chronique en tant que supporter. Ça sera te coûtera zéro. Je veux juste avoir un petit mot à dire le vendredi de 18h à 20h. Voilà, ça me ferait super plaisir, mais bien évidemment aucun coût pour RMC et pour toi. C'est ton émission, je ne voudrais pas que ça grève ton budget.
Tu cherches des chroniqueurs ou pas?
Ouais, mais alors là, il penche, c'est un chroniqueur, mais qui penche vraiment Paris Saint-Germain. Donc ça va être dur de faire. On va faire une spéciale PSG, oui, je l'invite, Philou. Mais non, lui, c'est un. Philippe, c'est aussi un très bon ami depuis pas mal d'années. Et c'est un fou du Paris Saint-Germain. J'ai rarement vu ça. Déjà, il est passionné de foot, mais un vrai de vrai. Il fait des déplacements de malade. Mais le PSG, c'est sa vie. Et il y en a beaucoup, des gens comme lui.
Allez, un message de ton papa, Jean-Pierre.
Jérôme, dis donc, j'ai le cadeau de Jay à monter, là. Mais je ne sais pas si tu vas réussir tout seul. Donc, si tu veux venir le monter à la maison, mais surtout, prends des gants pour ne pas te blesser.
Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que je ne suis vraiment pas bricoleur. Et moi, faire un trou dans un mur, je préfère que ce soit lui qui vienne le faire. Et le problème, c'est que maintenant, tu sais, avec son déambulateur, c'est pas facile de venir à la maison.
Mais... Il clash même son papa. Une question maintenant de Linda, ta femme.
Je voulais savoir si tu avais eu peur d'un match de par son enjeu ou l'équipe adverse, et comment tu avais repris le contrôle.
Peur, ouais, peur, j'ai eu une fois peur, mais peur pas du contexte et du résultat ou de ne pas être à la hauteur. La peur, je l'ai eu en Turquie, à Diyarbakir, à la frontière kurde, en Turquie. Et là, ouais, le match a été arrêté au bout de 30 minutes. Je peux te dire que c'est pas des cailloux qui lançaient les supporters, c'était des rochers. J'ai eu peur, mais j'ai même pas eu à reprendre le dessus parce que le match a été arrêté. En fait, mais c'est bête qu'elle soit pas en direct parce que je sais pas pourquoi elle a pris cette voix d'actrice porno là. Elle a parlé tout doucement, donc. Mais bon, on l'embrasse.
Je pense que tu étais dans le salon et qu'elle ne voulait pas faire de bruit.
Elle voulait pas que je l'entende.
Un message de Dominique, ta maman.
mon petit garçon, qui a bien grandi, il m'a fait assez trembler. Mon Dieu, le stress qu'il a pu me faire connaître pendant toutes ces années. Mais bon, je suis très fière de lui et de l'homme qu'il est, qu'il est devenu, et j'espère qu'il restera. Eh bien, je l'embrasse très, très fort et il sait de toute façon qu'on est là tous les jours.
Exactement. Et qui reste... qui reste le plus longtemps là par, avec moi, voilà, tout simplement, parce qu'on vit une période tellement compliquée qu'on craint aussi pour ses proches et que, voilà, bah, ils ont leurs soucis, ils ne sont pas tous les deux en grande forme, ma maman surtout, et, mais ça va, ils tiennent le coup. Et donc oui, on échange beaucoup, de toute façon, je ne vais pas changer, si pour la rassurer, comme elle dit, je ne change pas, mais non, je ne vais pas changer aujourd'hui, je suis comme ça. J'ai mon caractère, on va pas me refaire, mais voilà, mais moi aussi, hein, j'ai besoin d'eux, de toute façon, j'ai toujours eu besoin d'eux, et pour diverses raisons, de toute façon, mon père a été très proche sportivement, ma mère pour la côté, voilà. Aujourd'hui, par contre, quel stress, oui, c'est une grande nerveuse, de toute façon, ça se voit physiquement. Ouais.
Il manque pas quelqu'un dans l'interrogatoire ?
Très très proche, t'as fait le tour, je pense.
Ah non, il manque quelqu'un. On va écouter un petit mot de Jay, quand même, ton fils.
Ah, t'as réussi à l'avoir.
Quand tu vas au travail, qui on manque ? Je t'aime, papa.
Aïe, 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 c'est... Ouais, ouais, bah oui, oui, mais tu vois, il parle bien, maintenant. Ouais, ouais, c'est... On a une relation, alors attention, hein, j'ai... Bah, attention, j'ai deux grands-enfants qui ont 20 ans et... Hein, qui est aux États-Unis et ma fille qui a 19 ans, qui fait ses études maintenant. Ils sont grands, ils sont très grands, mais c'est vrai que je ne les ai pas vus grandir avec ma carrière. Lui, Jay, je profite d'autant plus d'être là tous les jours et que cette relation que j'ai avec lui, elle est fusionnelle. Alors c'est normal, hein, c'est un père qui parle de son fils et on est beaucoup à être dans ce cas-là, mais il me le rend tellement bien, tu vois, c'est affolant. Puis t'as vu la petite voix, t'es obligé de tout céder. Je suis un papa poule, hein, de toute façon, voilà. Et puis là, tout est fait en ce moment pour le rendre heureux, voilà. Donc il me rend heureux en tout cas.
Merci beaucoup, Jérôme.
Merci
pour
à vous. C'était un grand moment et j'embrasse tout le monde.
Un grand merci en tout cas à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, pour son travail considérable.
Surtout, bravo Pierre.
Notre réalisatrice Julie Dereau, et une mention spéciale aussi à notre journaliste Arthur Perrault. Jérôme, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer seul face aux auditeurs.
Bon, écoutez, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Que 2021 soit bien meilleur que 2020, parce qu'on a tous été impactés. Ça peut pas être pire, je pense, sur cette nouvelle année. Donc vraiment, de tout cœur, je vous souhaite le meilleur, du bonheur, et puis continuez à nous écouter comme vous le faites. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette boîte aujourd'hui. JC a été remarquable, voilà. Et puis, à tous, je vous embrasse et vraiment profitez de vos proches. Et je suis sûr que, pensez à moi, regardez les rayons de soleil, regardez le ciel bleu, et 2021, il y aura beaucoup de bleu. Je vous embrasse.
RMC, la boîte à souvenirs.